Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, vous écoutez les Jeux du Mois, une émission de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Cyrus, et pour m'accompagner dans cette émission, je suis avec Flavien. Salut Flavien.
Salut Cyrus, tu es avec Flavien, mais le Flavien enrhumé de fin d'année.
Oh là 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 là, mais non, c'est pas la première fois que tu nous fais ça.
Non, non, bah j'attends à chaque fois de participer à une émission, en fait, sinon c'est pas...
Bah ouais, 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 t'attends pile le moment, bon, voilà. Bah en fait, du coup, on va considérer que c'est ta voix, elle est comme ça, puis voilà.
Ouais, donc, nouveau jeu du mois, le format critique de Proxy Jeux et de curation, où on parle de jeux qu'on a aimés, de jeux assez récents, sortis en français, et effectivement, qu'on essaye de traiter sous un angle critique. Et on va parler de deux jeux, comme dans tous les jeux du mois. Et ces deux jeux, figurez-vous, on attendait hein, pour en parler, Cyrus. Il y en a d'autres comme ça qui sont dans notre liste, parce qu'on a eu la chance d'y jouer en VO déjà depuis l'été dernier, tous les deux. Et on était là, et tout, vivement que ça sorte en France, parce que punaise, ça fera des jeux du mois assurés. Et enfin, les voilà. On va parler de quoi ? Pour les gens qui n'auraient pas lu.
Bah oui, on va parler de Done Up, qui était donc sous son nom d'origine Revolve, c'est ça ?
Exact.
Ouais. Et donc ça sera pour ta partie. Et de mon côté, je vais parler de Hot Strike, de son nom d'origine Hot Strike.
Ouais.
Ils ont pas fait.
Ah ouais, ils auraient pu. Hein.
Hangover versus.
Very bad trip. Hein.
Very bad trip, voilà ça. ce serait drôle, tiens d'ailleurs. Il y a des jeux comme ça avec un nom en anglais. Ouais, il y a Gigaming qui a dû faire des trucs comme ça.
Non. Ou Yellow aussi, je sais plus, mais il y a eu des bêtises comme ça.
Ouais.
Il y a eu notamment Three Chapters qui est devenu Once Upon a Draft.
Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai.
Dites-nous en commentaire comment vous auriez appelé Hot Streak en faisant un truc genre Very Bad Trip, donc en gardant un truc français. Ou bien si vous aviez fait une VF, une version québécoise, comment vous auriez appelé Hot Streak? Dites-nous ça dans les commentaires, ça fait les premiers commentaires. Parce que, on va revenir sur les commentaires après, mais il n'y en a pas eu beaucoup, alors on commence déjà à en demander.
C'est vrai. Bon, bah, on va commencer par remercier nos donateurs et donatrices, comme on le fait d'habitude. Alors, pour cette émission, Flavien, on va remercier qui ?
Et donc, cette semaine, on remercie Dr. Cheux, MCJC78, Volring, Gobarkas, Bobby Fada, Fendoel, Robin Ocrit, Pauvle, RetroFX. On remercie aussi Yann Solo, Perru et Nico Como.
Et puis on va également remercier notre sponsor, la Caverne du Gobelin. La Caverne du Gobelin, donc c'est 6 boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville, Toul, Semécourt, tout équipé d'un café-jeu. Mais c'est aussi une boutique de vente de jeux de société en ligne sur cavernedugobelin.fr. Voilà. Et donc on parle maintenant des commentaires de la dernière fois.
Ouais, on peut faire ça. Alors on parlait des commentaires et c'est vrai qu'il n'y en a pas eu beaucoup, malheureusement. Il y en a eu un sur... Alors maintenant c'est vrai qu'avec Discord aussi, il y a des fois des choses qui se regroupent pas au même endroit. Des fois on a plus de retours sur Discord, mais en tout cas sur le site il y a Bruno. Alors c'était pas vraiment des retours sur l'émission, mais en fait il donnait son impression un peu sur les deux jeux qui ont été traités, que ce soit donc c'était sur Longshot The Dice Game qui était traité par Peter et Carnival of Sins qui était traité par Kurtz. Et donc ouais, il disait son impression en essayant un peu d'enrober ça en phrases qui, voilà, avec des punchlines. Je pense que renierait pas l'opinion fesseur comme Carnival of Sins c'est péché, tu vois, enfin des petites punchlines comme ça. C'est Longshot, un jeu d'ambiance pour experts du jeu, voilà. Un chouette commentaire, donc qui a rajouté pas grand-chose, mais qui donnait plus son impression. Et sur Discord, j'ai relevé une chose, alors ça a un peu discuté du jeu, etc. Mais surtout, il y a RKF, alors il sera sûrement recité, il a peut-être été cité dans les dernières chroniques d'ailleurs. C'est un membre du Discord, en fait, qui propose en print and play des revisites de différents jeux. Et qui propose ça à disposition, rethématisé, réillustré. C'est cool ce genre d'initiative en termes d'accessibilité, en termes de partage. N'hésitez pas à rejoindre le Discord là-dessus et merci à lui. Donc voilà pour ce qui était du retour sur le Discord. Moi j'avais... T'as joué aux deux jeux toi, hein ? Oui, t'avais essayé Carnival of Sins aussi.
Ouais, oui. Et oui, bah oui, tu nous l'avais fait essayer à Essen, tu sais.
Ouais, c'est ça, c'est mon fardeau. Et Longshot, tu te rappelles, je t'avais fait jouer il y a un paquet de temps,
ouais,
en VO.
Ouais, mais bon, je me rappelle que franchement, il y avait pas du tout de feeling de Roll and Write, quoi.
Non.
Bon, c'était vraiment pour moi, c'est vraiment une solution ergonomique plus que vraiment un jeu dans le, un peu dans cette veine-là. J'en ai
pas de souvenir particulier.
Non, j'avoue.
Ah, moi, c'est un jeu que j'aime bien dans l'esprit. Je trouve qu'il y a quelques petits trucs. Mais moi, j'avais une anecdote là-dessus sur Longshot, le jeu de dés. C'est qu'en fait, la VF est prévue depuis un paquet de temps. Et à la base, ça devait s'appeler QAQ. Et
Ah
moi,
bon?
je ne comprenais pas parce que j'ai aucune connaissance de tout ce qui est le PMU, les courses hippiques et tout. En fait, ça veut dire c'était pour qui aura le quintet. Et sauf
Ah ouais.
qu'effectivement, QAQ, moi, je voyais pas du tout ça. Voilà, ça faisait soit CAC comme le CAC 40 ou un truc comme ça. Mais voilà, bref, ils ont bien fait de changer, je pense, parce que voilà. Mais c'était une petite anecdote de ma part
Ouais,
pour.
non, j'avais pas la ref non plus.
Ouais, bon, je pense qu'ils ont bien fait parce que je pense que pas grand monde l'aurait eu.
Ouais.
Voilà pour les retours sur les commentaires. Un petit point avant de commencer, on vous le redira peut-être en fin d'émission, mais comme l'an dernier, on va vous faire un formulaire des jeux du mois de l'année. Rappelez-vous, on avait fait ça l'an dernier. Ce sera dans le billet. En gros, l'idée, c'est de voter pour les jeux traités dans les émissions des jeux du mois que vous avez préférés. C'est détaillé, hein, sur le Google Form. Si vous voulez pas passer par Google pour quelconque raison, vous nous envoyez un mail à contact@proxyjeux.fr avec le classement des jeux. Voilà, c'est moins pratique, mais c'est envisageable. Et donc, il y aura 20 jeux puisqu'il y a eu 10 émissions. Et vous les classez de votre préféré au moins préféré, le premier, le 1 étant votre préféré, le 20 étant celui que vous aimez le moins. Ça servira pour le hors-série, pour un peu dire vos goûts et voilà ce que vous avez préféré dans les jeux qu'on a traités cette année. Voilà pour ce qui est de ça, on rappellera et puis ce sera rappelé dans les chroniques de fin de mois normalement, mais vous pouvez donc déjà y aller, le lien est dans le billet.
Super, merci Flavien.
Justement, on y va pour les deux derniers jeux du mois de l'année.
Bah oui, allez, je vais te laisser la parole pour que tu puisses nous parler de Donut.
Alors, Dnup, Donup, DNUP, comme vous voulez, on parlera peut-être du nom après, puisque effectivement la VO qui est la version que moi je possède en fait, c'est Revolve. Bah voilà, tu vois, un very bad trip, parce que Donup,
C'est
finalement,
vrai.
Revolve, ça collait bien. Donc c'est une adaptation par Asmodée. Alors moi, je sais, comme j'ai un peu suivi le projet que je savais sourcer depuis un certain temps, j'avais un peu suivi, et moi, aux dernières infos que j'avais eues, c'était chez les Space Cowboys, mais vous verrez pas Space Cowboys apparaître sur la boîte, parce que je pense que Asmodée, sur un jeu qui vise comme ça grand public et un peu un succès populaire, je pense qu'ils enlèvent un peu le côté studio de développement pour vraiment juste laisser la marque Asmodée. De toute façon, on va pas se mentir, le public potentiellement visé par Donut d'un point de vue éditeur, il s'en fout des Space Cowboys. Mais c'est dommage parce que avec les jeux pourris qui ont sorti les Space Cowboys depuis quelques années, ça leur a au moins fait un bon jeu avec leur logo dessus. Mais bon. Bref, sur la localisation, on parlera un petit peu, il y a quelques modifications plus ou moins importantes, cosmétiques ou autres, mais j'en parlerai plutôt en fin parce que ça reste assez anecdotique. Donc c'est un tout petit jeu de cartes, hein, Donup, c'est un jeu de défausse qui va se jouer forcément en minimum deux manches, en tout cas en plusieurs manches, et comme dans tout jeu de défausse, enfin, il me semble en tout cas, c'est la personne qui vide la première sa main qui va marquer deux points, et ensuite on va quand même continuer un peu, tu sais, il y a des jeux de défausse où tu t'arrêtes immédiatement, là non, on continue jusqu'à ce qu'il y ait une deuxième personne qui va marquer un point, et on jouera comme ça jusqu'à ce que quelqu'un ait 4 points. C'est pour ça que je disais minimum 2 manches, puisque ça peut être la même personne qui marque 2 points, puis 2 points.
C'est la loi des mathématiques.
Bon, cette limite de 4 points, vous en faites ce que vous voulez, hein. C'est le genre de jeu où tu peux enchaîner les manches et dire que tu joues en 1000 points, bon, peut-être pas, mais... Mais
Ça
voilà.
fait peut-être beaucoup. Ça dépend, tu fais des manches de 200 points. Voilà.
Mais il y a des jeux de presque défausse, ça existe, mais des jeux où le but serait de se défausser en dernier, tu vois, ça pourrait être. Ça existe peut-être, dites-moi dans les commentaires, mais tu vois, où du coup il faudrait gérer sa
Ah
main.
ouais. D'anti-défausse, du coup.
Ouais, c'est ça, mais où tu serais un peu obligé de jouer, quoi, parce que sinon, évidemment, aucun intérêt. Je passe, je passe. Et c'est un jeu de défausse aux règles assez simples, tu sais, les jeux de défausse, c'est toujours. Moi, pour en avoir développé et joué un paquet, d'un moment, tu te mélanges tout, tu te dis, ok, alors attends, est-ce qu'une suite de 1, 2, 3, c'est mieux qu'un brelan? Et puis, est-ce que je peux mettre un brelan sur une paire? Et est-ce
Ouais.
que 4 cartes, c'est mieux toujours que 3 cartes et tout? Tu sais, tout ça se mélange. Là, c'est vraiment assez simple. C'est tu joues une ou plusieurs cartes. Et si tu joues plusieurs cartes, c'est que des cartes de même valeur. Il n'y a pas d'histoire de
Ouais.
suite. Voilà, il n'y a pas de couleur de carte, hein, si ce n'est cosmétique, encore une fois, ou des trucs comme ça. Mais voilà, il n'y a pas de couleur. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'assez minimal de ce point de vue-là. Hein.
Et j'avoue que ça, c'est typiquement c'est le genre de truc, ces jeux dans lesquels tu peux à la fois faire des suites et des séries brûlants. En fait, je sais jamais comment trier les cartes. C'est super chiant.
Oui aussi, ouais, en plus c'est vrai. Et autre particularité quand même de Donup, alors désolé, des fois j'irais peut-être Revolve par habitude, mais je vais essayer de m'en tenir à Donup, c'est que ça fait partie de ces jeux de défausse, il est pas unique dans ce cas, mais tu sais, où on joue devant soi, on a une défausse personnelle, et on va pas balancer les cartes au milieu de la table, comme dans un Odin ou dans un carreau combo par exemple. Et c'est des dynamiques différentes, vraiment, enfin ça veut dire qu'on va interagir avec les défausses des autres souvent, tu vois, c'est le cas dans l'Inco par exemple, et également on n'aura pas le droit d'avoir deux fois la même combinaison autour de la table, donc si j'ai mis une paire, personne d'autre ne pourra mettre deux paires, sauf si la paire que tu vas mettre plus tard est meilleure que la mienne, auquel cas la mienne disparaîtra. Quand je dis la paire disparaîtra, en fait la combinaison va revenir en main. C'est quelque chose d'assez important vis-à-vis du titre
c'est
et de la dynamique.
Ça devient intéressant justement.
Donc soit tu arrives à battre une combinaison qui est déjà présente, en mettant une meilleure combinaison de même type, soit bah tu joues une autre combinaison et c'est parfois un peu contre-intuitif de ce point de vue-là, parce que souvent tu sais il y a l'idée de monter et donc là si quelqu'un a joué un brelan c'est rare de se dire que t'as le droit de jouer une paire. Et parfois, quand on commence les premières parties avec des gens qui ont un peu l'habitude des jeux de défausse plus classiques, souvent ils disent attends mais non je peux pas te battre. Mais si t'as le droit de jouer une seule carte, y a pas de souci, c'est une autre combinaison. Donc en fait c'est un peu comme s'il y avait plusieurs piles.
En fait c'est parce que c'est pas un jeu d'escalade en fait.
C'est vrai. Ou bien de plusieurs escalades en fait. Tu peux escalader mais ça va. Ouais.
C'est vrai.
C'est comme il y a certains jeux de plis, tu sais, où t'as plusieurs plis sur lesquels jouer. Là c'est t'as plusieurs défausses comme ça ou plusieurs piles d'escalade. Donc ça c'est l'action qu'on va essayer de faire le plus souvent, c'est de jouer des cartes devant soi en combinaison. Et il y a d'autres actions possibles, il y a récupérer toutes les cartes que quelqu'un a posées, t'as posé un brelan, je les prends toutes. Il y a aussi ajouter une seule carte à une combinaison existante. Donc t'as mis une paire, je te rajoute une carte qui fait un brelan. Tout en respectant évidemment la règle de base que ton brelan, bah, il doit être le seul à table après que j'ai rajouté ma carte. Donc soit t'arrives à battre un autre brelan, soit sinon j'ai pas le droit de te rajouter une carte. Si t'as 2-2 et que je t'en rajoute un alors qu'il y avait un brelan de 3, ben ça c'est interdit parce que ça ferait un brelan de 2 qui ne bat pas le brelan de 3. Et il y a une dernière action qui est assez drôle, c'est et qui est au cœur du jeu encore une fois, et du nom du jeu, c'est de retourner toute sa main. Parce que dans Down Up, les cartes, un peu comme dans Scoot dont on reparlera parce que c'est le même auteur, c'est Kay Kajino, ou comme dans Schwinner aussi, plus récemment pour un jeu sorti en français. Elles ont une valeur en haut et une valeur en bas. Alors c'est pas double face, attention, hein, c'est pas au dos de la carte, c'est vraiment en haut et en bas, elles sont coupées dans le sens vertical. C'est ça, horizontal.
Bah, je sais jamais pas comment le dire, du coup. Il y a un trait au milieu de la carte.
Hein. même pas. C'est ça. Dans le sens de la largeur, ce trait. Donc, voilà. Et vous verrez qu'il y a une filiation, évidemment, avec Scoot, hein, bien sûr. Et j'en parlerai, puisque c'est le même auteur et que vraiment, on peut tracer une filiation. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que cette action de retourner sa main, alors on peut le faire pour diverses raisons, mais c'est surtout qu'en fait, quelque chose qui est vraiment assez original dans le genre, il n'y a pas d'action de passé. Ce qui est très assez rare dans un jeu de défausse, tu sais, en général, quand tu peux ou que tu ne veux pas jouer, tu passes. Alors, on peut parler de hard pass ou de soft pass. Le hard pass, c'est passe et tu ne pourras plus revenir dans la manche.
Ouais, tu joues plus, quoi. T'es sorti. Ça, c'est typiquement les trucs, les jeux dans lesquels, tu vas scorer tes points en négatif, ce qui te reste dans ta main, genre de trucs, quoi.
Là où le soft pass, c'est, ben, en fait, tu passes, mais tu peux revenir si au tour suivant tu peux jouer ou que tu veux rejouer. Bah ben, là, il n'y a pas ni hard pass ni soft pass. T'as pas de passe tout court, en fait. Et donc, si tu veux pas jouer, en fait, tu vas devoir retourner ta main. T'es obligé. Ou ajouter des cartes ici et là. Mais du coup, des fois, t'es vraiment obligé de retourner ta main. Et c'est assez drôle parce que des fois, t'as pas envie, en fait. Et ouais, c'est déjà une originalité, tu vois, qui est pas grand chose sur eux, mais tu te dis, ah, c'est un jeu de défausse, on n'a pas le droit de passer. Et donc, je disais, ces cartes à double valeur et le fait de retourner. Donc, il y a cette action de revolve, de down-up, de retourner sa main. Mais il y a aussi le fait que dès qu'on va récupérer des cartes au centre de la table, que ce soit par l'action de récupérer toutes les cartes devant quelqu'un ou parce que quelqu'un a battu une autre combinaison et qu'on doit donc récupérer les cartes de notre combinaison, eh ben on va les retourner. En fait, dès qu'on va récupérer des cartes de la table, on va devoir les retourner pour nous les mettre en main. Et là aussi, c'est extrêmement important puisque ça va entraîner des dynamiques de « Ah ben, je mets des trucs pour pouvoir me les faire battre, pour pouvoir les retourner, pour qu'elles aillent dans une bonne combinaison. » Et ça fait beaucoup partie de la dynamique du jeu, créant même un peu de guessing dans le jeu, en fait, puisque t'es là et tu te dis « Ah oui, mais attends, si t'as mis ce 2 qui est nul parce que les valeurs vont de 1 à 10, et que de l'autre côté t'as un 7, c'est qu'évidemment tu veux retourner et avoir un 7. Et du coup, il ferait mieux de pas le battre pour qu'en fait, il ait pas ce 7. » Mais si ça se trouve, en fait, il veut juste se débarrasser de cette carte de merde. Et je trouve que ça marche vraiment bien.
C'est plus vrai quand t'as le 10 à l'envers. Là, tu fais c'est chaud, parce qu'en plus, vraiment, le 10 à l'envers, il y a vraiment une dynamique qui fait que en fin de game, ça peut vraiment te péter. Enfin, quelqu'un qui joue à un 10 tout seul, ça peut vraiment te péter tout.
Bah, un 10 dans sa combinaison est imbattable. Un simple 10, un double 10, peut pas se battre, tout simplement.
Et donc, ça t'oblige à passer et à retourner et à ne pas passer, justement, et à retourner ta main.
D'ailleurs, il y a un truc, alors tu me diras toi ton ressenti. Moi, j'ai joué à plusieurs jeux comme ça où les cartes sont séparées en deux avec une valeur en haut, en bas. Parfois, ça entraîne des gros problèmes de lisibilité où tu te dis, attends, mais non, t'as pas joué 3-2, là, t'as joué ça. Et je trouve que dans Down Up, ça va. On n'est jamais perturbé par l'autre côté de la carte, alors que, parce que tu sais, ce problème, il vient du fait que si t'es en face de moi, toi, tu les vois dans l'autre côté.
Tu les dis à l'envers, évidemment.
Et je trouve que dans Dawn Up, alors sûrement parce que, comme c'est des valeurs similaires, bah, en fait, de l'autre côté, elles le sont sans doute pas, et donc t'es pas perturbé, puisque tu sais que c'est pas une combinaison. Mais même sur les cartes simples, j'ai jamais eu ce problème de, ah merde, je pensais que t'avais mis un 4, alors qu'en fait, t'as mis un 7.
Bah, j'ai pas ce genre de problème, j'avoue. Parce que j'ai une vision dans l'espace qui fait que j'ai vraiment aucun problème avec ce genre de truc. Donc je subis pas trop ça.
Moi non plus, mais sur un jeu comme Rocket Punch par exemple, avec d'autres personnes sur un jeu comme Rocket Punch, il y a des personnes qui étaient très perturbées alors que j'ai jamais vu personne se tromper sur Dawn Up, quoi. Effectivement, c'est peut-être le visuel aussi.
Ils ont peut-être réussi quelque chose visuellement qui fait qu'on se plante moins.
Et enfin, il y a un dernier point de règle sur lequel je reviens, donc c'est que c'est un jeu de défausse. On veut donc se débarrasser de nos cartes. Le truc, c'est qu'on les pose sur notre défausse personnelle. Et j'ai dit qu'on pouvait les récupérer. Parce que pour défausser, en fait, c'est comme dans Fujiflush, c'est une filiation assez forte. Je me demande, j'ai pas lu d'interview ou quoi de Keikajino, de journal d'auteur, mais je me demande si c'est pas une influence directe quand même, parce qu'en gros, il faut que notre combinaison, elle tienne jusqu'à notre prochain tour. Et c'est au début de notre tour, en fait, qu'on peut défausser notre combinaison si elle est encore là. Exactement comme dans Fujiflush, tu vois, où si jamais t'arrives à tenir jusque là, ben là tu as la récompense de la défausse, sinon ben, tu vas reprendre tes cartes en main et tu ne vas pas avancer vers la défausse, donc vers la victoire. Moi c'est quelque chose que j'aime bien.
Il y avait pas un truc un peu dans le même genre dans Nanatori Dori ou un truc comme ça?
Il me semble pas dans Nanatori Dori. Je pensais au début dans Scoot, mais en fait non, dans Scoot c'est que si ta combinaison elle tient jusqu'à toi, tu gagnes carrément la manche. Sans même avoir besoin de tout défausser, tu sais, c'est que t'as mis une combinaison suffisamment forte pour vraiment que ça revienne jusqu'à toi et que les autres n'ont pas réussi à te battre d'ici là. Mais Nanatori Dori,
ce qui est quand même une variation sur le principe quand même.
Ah carrément, et bah c'est le même auteur, donc c'est intéressant de voir qu'il a il a repris ça différemment. Mais moi, ce que j'aime bien ça même dans un, tu sais, dans Kemet par exemple, je crois que c'est il faut qu'au début de ton tour, t'aies validé les points de victoire pour valider la victoire. Mmh. Et c'est quelque chose que j'aime bien parce qu'en fait, ça crée tout de suite une espèce de jeu de survie où les autres, ils ont un tour pour t'empêcher de gagner. Et ça donne aussi, comme dans Fujiflush, l'idée d'alliance qui est pas formalisée du tout dans les règles, mais qui se met très très vite en place dans Fujiflush comme dans Dawn Up, et qui crée des interactions verbales en plus des interactions que va créer le jeu naturellement par ses dynamiques. C'était aussi le cas dans Kemet.
Il y a ça, et il y a aussi le fait que, tu sais, le fait qu'il y ait deux points et un point, tu sais, du coup t'as un adversaire qui est plus le méchant que l'autre quand même.
Ça fait partie des jeux à plusieurs manches où ça a du sens, parce qu'il y a un côté badge de leader, tu vois, où t'es là et tu te dis, ah oui, mais lui, il est déjà à 2 ou à 3, s'il gagne encore un... Comme dans aussi Prey Another Day, un peu, tu vois, où il y a des moments où tu te dis, vas-y, là, faut qu'on s'allie et qu'on le bouffe, parce que sinon, lui, il va gagner la partie. Alors que si moi, je gagne, t'as encore une chance de t'en tirer.
Ouais, c'est moins grave.
Ouais.
Ça me faisait, ce que tu disais aussi me faisait penser à route, alors pas la dernière dynamique, mais c'est celle où, c'est quand tu prends les dominations en route, c'est le principe aussi, faut que ça tienne jusqu'à ton tour, quoi.
Ouais, carrément.
Et du coup, tu vas prendre effectivement les alliances des autres. Ouais, on a réussi à faire, c'était histoire de faire un grand écart entre Dawn Up et route. Voilà.
Ouais, mais c'est intéressant de voir, tu vois, des dynamiques de jeu qui se retrouvent dans des jeux de genre complètement différents et de poids totalement différents. En fait, c'est pas grave, des mêmes dynamiques peuvent exister et des mêmes dynamiques à la fois de jeu et d'interaction interpersonnelle, quoi. Et voilà pour ce qui est de tout ça. Et j'ai déjà un peu expliqué certains tenants et aboutissants un peu de ce qui fait que moi j'aime bien Dawn Up. Du coup, tout ça, en fait, ce côté défausse personnelle, au lieu d'une défausse au milieu de la table, ce côté qui rappelle un peu Scoot ou Linko, en fait, ça crée des interactions assez différentes de jeux, effectivement, comme je sais pas, Big Two, ou des jeux de défausse traditionnels, le président ou quoi. C'est drôle parce que finalement, c'est un peu moins tape-carton, tu sais, ça fait tout de suite un peu plus réflexif, je sais pas exactement comment le dire, mais en tout cas, t'as un peu moins l'impression de taper le carton et de balancer les cartes un peu à la va comme je te pousse en voyant ce qui se passe. Un type de jeu où t'es plus attentif, enfin, tous les jeux comme ça, là, que ce soit Linko, Scoot, celui-là, j'ai vraiment plus l'impression de me creuser la tête que dans un Odin, par exemple. Alors après, il y a des jeux où tu mets au milieu, par exemple, Carreau Combo, où t'es aussi un peu moins dans le tape-carton, mais j'ai l'impression que ces jeux à défaut personnel. Ah, je dis ça, et Fujiflush finalement est un jeu de défausse à défausse personnelle et où t'es vraiment tape carton.
Donc c'est peut-être pas. Ah, mais t'as beaucoup moins d'options dans Fujiflush. Tu joues une carte à chaque fois.
Ouais,
là, effectivement, t'as des combinaisons, t'as le fait de les retourner, donc t'as une espèce de planification un peu de ton, comment dire, de ta manche. T'essaies de planifier un petit peu comment tu vas essayer de l'organiser pour pouvoir te défausser le plus vite possible. Quel est le plan de jeu? C'est ton plan de jeu, en fait. Et puis après, t'as les, t'as les événements qui arrivent, qui viennent contrecarrer ton plan de jeu, qui du coup te nécessitent de le revoir. Ouais, c'est ça.
Ouais, bah on va parler de deux jeux à situation, hein. Pas pour les mêmes raisons, mais c'est des jeux à situation tous
ouais,
les deux pour ce soir. Moi, je sais, puis on fait ça en parler dans Flip 7 ou quoi. Moi, les jeux à situation, c'est quelque chose que j'adore parce que c'est ce qui met de la vie un petit peu et qui permet de donner des parties contre l'identité. Et du coup, je parlais de Scoot, donc dont l'auteur elle-même, hein, donc c'est Kei Kajino, qui Scoot, rappelons-le, était quand même nommé au Spiel des Jahres et il était reparti déçu, de honteux même. Hein, j'avais entendu Iso Bretnik en parler.
Oui, c'est vrai.
Et il était vraiment honteux, hein, de ne pas avoir gagné, alors même que être nommé était déjà exceptionnel.
C'était
pour un
déjà,
jeu.
Ouais.
Et donc, il a quand même continué la production de jeux de société. C'est vrai, il aurait pu s'arrêter en se disant non, plus jamais. Non, il a continué, il a bien fait parce qu'il a fait un très bon jeu. Alors, il a fait d'autres jeux, hein, mais que je connais pas du tout. Et surtout, ouais, la filiation avec Scoot, c'est super intéressant parce que il y a ce côté carte coupée en deux. Il y a vraiment ce côté tour de table. Même si du coup, en fait, il y a cette filiation, mais bah, c'est pas le même jeu du tout. C'est pas les mêmes sensations. Notamment, le but du jeu. Tu sais, Scoot, c'est un jeu à points. Ou quand tu finis ta manche, tu vas avoir gagné des points. Justement, quand tu bats la combinaison de l'adversaire, en fait, tu sais, tu récupères ces cartes qui vont compter comme des points. Et puis, tu vas aussi gagner des points si tu arrives à te défausser. Mais du coup, c'est pas exactement pareil. Alors que là, vraiment, le but, c'est de se défausser. C'est pas de mettre le plus de points. En fait, les points vont avec la défausse complète. Donc, c'est finalement plus immédiat aussi. Je pense que c'est un peu plus simple que Scoot.
Ouais, ouais.
Finalement, il n'y a pas de côté annexe ou quoi de marquer des points. C'est vraiment, bah, en fait, il faut que je me défausse. Et alors, ce qui fait de Down Up vraiment un truc assez brillant et où première partie, en fait moi j'avais eu de très bons retours sur Revolve, des gens qui disaient waouh, c'est très fort, c'est devenu instantanément un de mes jeux de défausse préférés et tout. Moi je me méfie toujours de ces déclarations un peu à l'emporte-pièce, mais pourquoi pas, mais du coup j'avais eu ces très bons retours. Et c'est vrai qu'à la lecture de la règle, t'es là et tu dis ok, bon ouais, ce côté là ok, c'est l'auteur de Scoot machin, mais ce qui fait vraiment de, c'est à la première partie en fait, tu vois apparaître des trucs où vraiment quand t'as lu la règle ou quand tu l'as expliqué la première fois sans connaître le jeu, en fait, t'es là, ah, mais attends, ça fait ça. Et ça crée des rebondissements, justement, il y a des situations. Je vais pas forcément vous présenter tous les trucs parce que moi, ça m'a surpris lors de la première partie. Et je trouve que, tu vois, c'est une forme de spoil un peu de dynamique de partie et de moment de eureka un peu. Notamment quand j'explique le jeu, maintenant que je le connais, j'ai des façons un peu différentes selon les personnes à qui je l'explique. J'hésite toujours, tu sais, parce qu'on donne des exemples quand on explique selon, ah bah là, tu vois, ta combinaison, c'est ça, donc machin, ça lui permet de reprendre les cartes en main. Et j'hésite toujours à montrer les conséquences,
ouais,
de certaines des actions.
Pour pas gâcher le plaisir de la découverte.
C'est ça, mais en même temps, présenter ces exemples, ça permet de mieux saisir la dynamique du jeu aussi, mais ça gâche la surprise en jeu. Finalement, on s'en fiche un petit peu parce que l'effet, en fait, moi, à chaque fois, c'était des « Ah !» Que ce soit à l'explication ou pendant la partie, tu vois, le moment où ces situations se produisent, ils font des « Ah, ok !»« Ah, mais attends, mais c'était... Ah, ok !» Et tu sais, il y a le petit moment Eureka et c'est super satisfaisant.
Ouais, et puis du coup, t'as peut-être aussi envie de le déclencher, cet effet, tu vois, les effets en cascade, genre de trucs, quand on t'explique que ça peut arriver... Ouais. Tu vas plus facilement les chercher que si tu dois deviner que ça peut arriver et que du coup tu vas jouer peut-être un peu plus, comment dire, ouais, si tu le sais pas, en fait tu vas jouer de façon plus logique, enfin comment dire, dans un périmètre de tu maîtrises et du coup tu vas pas voir les subtilités du jeu finalement.
Ouais, c'est possible, mais du coup le moment où tu vas le faire pour la première fois, il y a un côté où tu viens d'ouvrir les yeux, en fait tu vois, t'avais des œillères et boum,
oui,
elles s'en vont d'un,
ouais,
coup et tu dis,
ouais.
Ok, en fait, ce jeu, c'est beaucoup plus que ce qu'il y paraissait. Mais ce qui est cool, c'est que le plaisir, tu vois, moi, j'ai dit, hein, dans les premières parties, j'adore voir les yeux des gens s'ouvrir comme ça et faire « Ok ». Mais c'est pas juste au moment de la découverte, tu vois, parce qu'il y a des jeux comme ça où au moment de la découverte, les gens sont là et puis finalement, après, tu te lasses un petit peu et tu te dis « Bon, ok, le plaisir était uniquement lors de la première partie ». Là, en fait, tu peux le pratiquer et en fait, la pratique de la création de ces situations est aussi satisfaisant.
Ouais, voilà.
Donc tu vois, c'est pas un côté boum, allez, j'ai mon twist et puis après en fait le film il est nul et bah du coup je connais le twist, le film est maintenant inintéressant. Non, parce que tu vois, pour prendre un exemple de Usual Suspects où t'as un twist final fort, bah t'as un plaisir après à revisionner le film pour voir tout ce qu'il y met, et tu te dis, oh ouais, c'est quand même vachement bien fait et tout. Et du coup, ça repose pas uniquement sur son twist. Et ben là, pareil, tu vois, il y a ce qu'on pourrait appeler un twist, mais ben le plaisir de la création du twist demeure. Et donc ça fait que ben, c'est pas un jeu que tu joues qu'une fois. Et surtout que les situations sont suffisamment variées autour d'une table pour que ça restera un peu les mêmes twists, les mêmes situations que tu vas créer, mais dans des dynamiques différentes, à des moments,
ouais,
différents de partie,
mmh,
qui vont créer des parties différentes de toute façon. Et en gros, pour rester un peu vague, même si c'est bon, hein, comme dit, normalement, une première ou deuxième partie, vous allez comprendre de quoi je parle, et voilà, j'espère ne pas trop survendre le
Ouais,
truc.
attends, on n'est pas dans le spoil non
Non,
plus, hein. Je pense que tu prends beaucoup de pincettes, mais bon.
non. Ouais. Faut avoir l'idée qu'en fait, c'est des effets de rebond. On va jouer un peu en plusieurs bandes pour arriver finalement à une situation finale et où ben, il va se passer un truc qui va influencer un autre truc, qui va influencer un autre truc, boum, boum, boum. Et c'est quelque chose de très fin. En fait, c'est un jeu plein de finesse. Et moi, c'est vraiment des interactions, encore une fois, auxquelles je m'attendais pas forcément et que je trouve vraiment très élégantes et assez subtiles. Et je m'attendais pas à ce niveau de subtilité-là quand j'ai lu les règles. Et c'est ce qui fait de Down Up vraiment ce truc très particulier, je trouvais. Et que vraiment, je le mets dans les jeux du mois, tu vois. C'est pas juste un jeu de défauts supplémentaire comme il y en a beaucoup qui sortent chaque année, quoi. Et c'est vraiment là-dessus que je le distingue, ouais.
C'est même d'ailleurs le genre de jeu, je me demande, tu vois, enfin, je pense pas que ça a été designé pour que ça fasse ça, tu vois, je suis pas sûr. Quoique, comme c'est parti de Scout, et que, effectivement, tu me l'as rappelé, j'avais une réflexion sur Scout, en disant, ah, je trouve dommage qu'il n'y ait pas la possibilité de faire des actes, effectivement, des actions en chaîne, je pense que c'était le truc de pouvoir reprendre des cartes et que ça fasse effectivement ces actions en chaîne. Et tu m'as dit, ah bah, tiens, justement, en fait, c'est dans
Et
Evolve.
il a peut-être écouté les jeux du mois de Hammer, hein.
C'était là-dedans que j'avais dit?
Ah bah, toi t'avais fait Hit et Hammer, Scoot, je crois, si je dis pas de bêtises à l'époque. Donc peut-être que Keikajino a
Ouais,
écouté.
oui, effectivement, oui. Non, mais je me rappelle que j'avais fait le. Oui, bah, j'avais dû le dire pendant l'émission, ouais, c'est possible.
Et du coup, bon voilà, moi c'est vraiment ça que je retiens de Down Up, c'est vraiment toute cette subtilité qui est inapparente à la lecture des règles. Tu sais, il y a des jeux comme ça où tu lis les règles et ça va pas révéler en fait la finesse et la subtilité, et la profondeur du jeu. Et j'adore ça en fait quand c'est par hasard que tu te rends compte de ça.
Bah, c'est même. Est-ce que c'est pas d'autant plus le cas dans ce genre de jeu, tu vois, dans tout ce qui est jeu de défaut, jeu de pli, t'as pas. T'es tellement dans l'explication des grands principes généraux, et puis t'as le petit twist, mais en fait tu sais pas toujours en termes de dynamique ce que ça va rendre, parce que
Ouais, complètement.
en fait ça t'explique pas la dynamique, ça te dit juste tu fais ci, ça, quoi. Et après t'as les cartes, t'as les valeurs, t'as les couleurs, t'as la répartition, et c'est ça qui va faire émerger la dynamique. C'est un peu comme finalement ça me fait penser, tu sais, à ces jeux de cartes à effet.
Ouais, ah oui.
C'est vrai, c'est marrant, c'est des jeux de cartes mais sans effet, et dans les jeux de cartes à effet souvent, bah, tout est dans les effets des cartes, et
Oui, c'est pareil pour
dans
Origin Story,
ces
tu vois.
jeux-là,
Origin Story, les effets
ouais,
seraient nuls, ben le
exactement,
jeu
ouais,
serait nul en fait. Le jeu de pli en lui-même est pas très intéressant, c'est.
et oui, voilà. Et bah, quelque part dans ces jeux de plis, jeux de défauts, etc., c'est pas la règle en tant que telle qui va faire que le jeu il est intéressant, qui va montrer que le jeu est intéressant. C'est l'émergence de bah ouais, des valeurs, des coups, enfin la répartition des couleurs, de effectivement un petit twist, mais qui se révèle pas à la règle. C'est ouais.
Ouais, parce que moi pour pratiquer quand même pas mal, j'en lis des règles hein, de jeu de pli et parfois tu vois le twist et tu dis ok, je vois ton truc, maintenant qu'est-ce que ça va donner en jeu?
Qu'est-ce
Parce
que
que
ça donne vraiment, hein?
souvent notamment les jeux japonais, c'est des jeux à twist, voire à deux ou trois twists, et en fait c'est du twist pour le twist, et le jeu de la carte est chiant. Et tu vas te dire ok bon bah en fait d'autant plus des fois le twist se produit une fois toutes les 20 tours et t'es là et tu te dis bon bah ok en fait t'avais une idée de twist c'est cool dans les règles mais en fait ça n'a aucun impact en jeu et à l'inverse et ça demande de la pratique en fait c'est vrai après pour tous les jeux hein, tu vois mais dans les jeux aussi cadrés que des jeux comme ça de pli de défaut c'est tellement revisité bah t'as vraiment la dynamique qui va émerger de ça et qui va faire que le jeu est bien est moyen ou est mauvais, et ça va se jouer à pas grand-chose. Parfois, c'est juste ce qu'on appelle le deck make-up, la composition de,
Oui,
tu vois, les cartes qui sont dans le deck et
mais
tout.
la
Et
répartition,
franchement,
d'accord.
pour avoir essayé en termes de dev, c'est un enfer, hein. C'est un enfer de trouver la
Ouais.
répartition de cartes qui va donner les bonnes dynamiques, parce que tu changes un petit truc et boum, ça te flingue tout. Et
Ouais.
c'est vrai, un vrai travail d'orfèvre qui parfois apparaît peut-être par hasard, mais ou bien il faut vraiment du dev. Alors là, pour le coup, le dev, on dit souvent, tu sais, que certains auteurs japonais, au niveau du dev, c'est pas terrible parce qu'il y a une vente un peu artisanale et que de toute façon, ils veulent vendre leurs quelques centaines d'exemplaires au game market et il n'y a pas de visée internationale. Je sais pas ce qu'il en était ouais, à la création de Revolve, hein, vu que c'est quand même un auteur qui a déjà été édité internationalement. Mais là, même dans Revolve, les dynamiques étaient les mêmes. Hein. C'est pas un travail de Space Cowboys ou tu vois, c'est pas comme pour Trio où là tu dis ok, waouh, Cocktail Games, vous avez sacrément bossé et vous avez vraiment transcendé le jeu. Là, honnêtement, le cœur du jeu, il était là dans Revolve. Donc, je dis développement, c'est vraiment de l'auteur ou des testeurs, testeuses, mais Il y a eu quelques modifications, quelques cartes en plus ou quoi chez Asmodée, mais c'est assez mineur quoi.
Ouais,
Enfin le.
c'est ce que j'allais te demander. Il y a une petite répartition de cartes différentes, du coup, entre les deux.
Ouais, bah notamment, j'y reviendrai, mais ils ont changé le nombre de joueurs ou joueuses. Tu peux aller jusqu'à 5 et du coup ils ont forcément changé un peu des trucs au niveau de la répartition
Ouais.
des cartes. Mais c'est ce que les éditeurs ils aiment bien en ce moment, c'est un jeu qui arrive presque fini.
Ah oui, parce que dans Revolve, t'enlevais pas de cartes. Tu jouais toujours avec toutes les cartes ou tu les enlevais au pif.
Ça, je sais plus, mais en tout cas, comme il y a plus de personnes, je crois qu'il y a eu quelques modifications. J'ai pas les détails, mais je me rappelle avoir vu effectivement quelques modifications à ce niveau-là du fait du changement de nombre de
Bah là,
joueurs
il
ou
y a
joueuses.
dans Done Up, il y a des cartes qui sont marquées 3 plus entre guillemets, 4
Ok,
plus, 5 plus.
ouais, j'ai pas le souvenir sur Evolve,
Donc
ouais.
c'est toujours les mêmes que t'enlèves en tout cas quoi. Mais non, je me rappelle pas de ça non plus.
Après, honnêtement, alors vous pouvez compter, moi c'est un jeu où je compte rien.
Ouais, non.
Peut-être tu pourrais compter les 10, tu vois. Par contre, j'oublie toujours que c'est une carte qui indique qui commence. Tu sais, je me dis toujours, alors attends, c'est qui commence la manche suivante? C'est la personne qui a le plus de points, le moins de points? Ah bah non, c'est la personne
Ah oui.
qui a telle carte qui indique start player.
Bon, en même temps, est-ce que c'est vraiment c'est une manière comme une autre, mais
Non, non, on
je
s'en
pense
fout.
pas qu'elle soit très
On s'en
importante
fout.
dans le jeu.
Également, je parlais de Fuji Flush et de l'interaction. Donc, il y a les interactions créées par le jeu, cette subtilité. Puis, on parlait d'interactions verbales, des interactions entre les personnes. Et moi, c'est quelque chose que j'adore. Comment tu peux pourrir quelqu'un? C'est vraiment un jeu de râleur, quoi. Où t'es là et tu dis, ah, tu me fais encore reprendre ça. Alors, des fois, en bluffant un peu parce que ça t'arrange, mais des fois pas, quoi, du tout. Et c'est vraiment un jeu, ouais, où tu vas chouiner. Et où, je sais que nous, quand on a joué, alors j'ai fait des parties où c'était pas le cas, nous, on jouait pas mal à la parlante. En disant, bon, tu vois là, il a presque fini machin, il a 3-3. Si j'en mets 2, est-ce que tu peux me. Si je mets 2-4, est-ce que tu peux me gonfler pour lui faire reprendre ses 3-3?
Ah
Des
ouais.
trucs comme ça. Et moi, j'aime bien ça, mais c'est comme dans Fuji Flush où tu dis, bon, on part sur du 3. Qui me suit? Vas-y, vous me suivez sur du 3
Mais
et.
dans Fuji Flush, c'est écrit dans la règle que t'es pas censé faire ça.
Ah ouais?
Alors que dans
Ok.
Done Up, je l'ai pas lu. Hein. J'ai lu la règle en entier. J'ai pas vu ça. Hein.
Ouais, bon après, faites pas ça avec des gens qui jouent qu'à des Eurogames, ils vont râler, hein, mais moi c'est quelque chose que j'adore. Bon après j'aime bien ça dans tous les jeux, hein, pas que dans les jeux de cartes, mais tu vois ce côté forme des alliances temporaires que parfois tu respectes pas.
C'est le côté un peu jeu de comptoir aussi, tu vois, enfin un moment.
Ouais, clairement. Et finalement, le système de validation de début de tour, enfin de début de tour suivant, bah ça facilite ça en fait. T'as l'impression que c'est presque incitatif pour justement cette création d'alliance et se mettre d'accord pour que, comme il y a un tour, il faut qu'on arrive à lui faire reprendre ses cartes, notamment si c'est quelqu'un de menaçant, quoi. Mais du coup, finalement, même le système de jeu, tu vois, le game design est incitatif dans cette dynamique, sans aller forcément jusqu'à parler directement et dire ce qu'on va faire, mais il y a quand même de ça, quoi. Et t'en as un petit peu parlé, il y a aussi le fait qui rend le Down Up pas juste du tape-carton. C'est le côté construction de main qu'on a dans d'autres jeux, hein. C'est bah dans Odin, alors de manière un peu légère, hein, dans Odin, mais aussi dans Nanatori Dori ou Jungo, qui sont le même jeu, ou dans Karo Combo, tu sais, notamment avec la carte où tu prends 3 cartes et où tu vas pouvoir les insérer vraiment à certains endroits très stratégiques. Peut-être qu'on pourrait vraiment parler de hand management dans ce cas-là. Je sais plus, est-ce qu'il y avait pas quel. C'était pas Bartouf qui parlait de Karo Combo comme jeu de hand management, je sais plus. Il me semble que
Je
tu sais
sais
les jeux
plus.
à placement contraint comme ça.
Je sais plus, mais bon, ce serait, oui, ça pourrait être. Enfin, en tout cas, sémantiquement parlant, le terme il est tellement large que on pourrait, en parlant de construction de main ou de gestion de main, oui, on pourrait comprendre ça, quoi.
Moi, je le vois vraiment comme ça, tous ces jeux-là, là où moi, j'adore ça, hein. Je pense que j'en avais déjà parlé dans, je sais plus dans quel jeu, mais j'adore au début quand tu dois regarder ta main, tu regardes les cartes du haut, tu regardes les cartes du bas, t'es là, tu te dis, alors je crois que je préfère encore ça dans un scout ou carreau combo, les cartes ont pas le droit de bouger parce que dans Down Up, on peut les arranger comme on veut juste. Contrairement à Scout, tu sais, Scout, tu les as au début, t'as pas le droit de les bouger, mais tu peux les retourner. Là, c'est l'inverse, t'as le droit de les bouger, mais t'as pas le droit de les retourner, t'as pas le droit
Ouais.
de choisir le sens initial. Je crois que je préfère, ouais, encore ça dans les jeux à placement contraint comme ça, où t'as pas le droit de les bouger, où t'es là et tu te dis, attends, je vais faire ça, puis ça va rapprocher ces cartes, machin, j'adore ça. Et tu l'as un petit peu dans Revolve, mais en fait, dans Down Up, tu l'as à plusieurs moments de la partie où tu te dis, ok, là, je vais prendre ça, puis je vais retourner, puis ici. Et il y a vraiment le sentiment de construire son jeu. Et ça renforce vraiment, ça reste un jeu vraiment facile à l'usage et tout, et où tu tapes le carton quand même, tu l'as dit, jeu de comptoir, mais ça donne quand même le sentiment d'un jeu où t'as vraiment du pouvoir sur le jeu et qu'à le bon équilibre, tu vois, t'es pas dans de l'analyse super lourdingue.
Oui, ouais, c'est exactement, ouais.
T'as l'impression de jouer beaucoup plus que dans un Odin, par exemple, où t'as un peu l'impression de jouer beaucoup en automatique ou quoi, ou dans John Go aussi, Nanatori Dori, c'était un peu moins le cas. Dans John Go, c'est beaucoup plus le cas, où t'as un peu plus l'impression de, bon, bah voilà, ok, bon, bah la partie elle est finie, on en refait une, c'est pas grave, c'était 5 minutes, mais ça pourrait quand même être mieux comme jeu. Parce que encore une fois, un jeu accessible, c'est jamais un argument, évidemment, pour dire que le jeu est bon. Enfin, c'est un critère factuel, mais c'est pas un critère de qualité. Là, ouais, t'as du contrôle, et ça pousse à se dire cette construction de main. À comment est-ce que je vais optimiser, comment je vais trouver le bon rythme entre le moment où je vais construire ma main, je vais récupérer des cartes, je vais retourner ma carte, je vais me faire 4-6 en même temps, etc. Et quel moment, en fait, au-delà de la construction de main et de récupérer peut-être des cartes pour me la construire, à un moment, il faut que j'aille défausser parce que c'est comme ça qu'on gagne. Et justement, contrairement à Scoot, je peux pas gagner des points autrement. Il y a toute une notion de tempo comme ça et... Alors parfois, c'est un tempo un peu à la Stéphane Dora, poum, ouais, au milieu de ma manche, je vais devoir aller vers la défausse. Mais parfois, c'est des petits moments comme ça dans une même main où tu te dis, bon, bah là, je reconstruis. Là, je retourne vers la défausse. Ah, là, on m'a pourri. Bon, ok, il faut que je m'adapte. Donc, en fait, t'es à la fois... C'est ce que t'avais dit aussi sur Cardia, je crois, en début d'année, justement, quand on avait fait le jeu du mois dessus. C'est qu'en fait, à l'échelle de Dawn Up, t'as une vraie notion de stratégie à long terme. Tu vois, à l'échelle d'une manche de Dawn Up qui est assez courte. Mais t'es vraiment en train de réfléchir à, ok, où je veux aller à la fin et comment je vais y aller. Et après, derrière, ben, une échelle plus court terme où tu dois t'adapter à ce qui se passe et où tu vas devoir remettre en cause cette stratégie. Mais je trouve que, ouais, y a vraiment une espèce de réflexion à long terme, encore une fois à l'échelle d'une manche, qui est assez cool dans le jeu et qui donne cette sensation de contrôle et cette sensation de, à aucun moment t'es là, t'attends ton tour, etc. En fait, t'es tout le temps un peu en train de regarder, en train de te dire, ok, est-ce que je peux faire mieux avec ce qui a été posé? Est-ce que là, y a quelque chose qui m'encombre dans ma stratégie? Est-ce que là, moi j'avais prévu que vous jouiez des cartes pour que je reprenne ça? Alors certes, vous l'avez pas fait, je vais pouvoir défausser ma carte. Mais à long terme, ça aurait été mieux que je les récupère pour des meilleures combinaisons. Et je trouve, ouais, que cette notion-là, ouais, ça donne vraiment le sentiment d'un jeu où t'as le pouvoir. Ça marche pas toujours, des fois le jeu se joue de toi et des fois, ben, tant pis pour toi. Et ça va aussi avec le genre du jeu, mais, ben, pour moi, ouais, l'équilibre est nickel dans Dawn Up. Et ouais, et j'aime bien aussi le fait que parfois t'as des coups d'opportunité, tu vois, et où tu dis, ah mince, j'avais pas prévu ça comme ça, mais ça va m'aller. Et ce côté plus... Par exemple, un exemple de situation, ben, je disais, on peut ajouter une carte à une combinaison. Ça a un effet direct. C'est, t'as une carte pourrie qui est isolée dans ta main, ben, pouf, tiens, je mets mon 2 sur tes 2. Ben, en fait, si t'arrives, je l'ai plus dans ma main. Donc, en fait, c'est un autre moyen de me défausser. Alors, ça va peut-être moins vite qu'en posant 3 cartes de mon côté, mais au moins, c'est une carte dont je me suis débarrassé.
Surtout s'il était déjà tout seul. Bon.
Surtout s'il était déjà tout seul. Mais maintenant, imagine, je mets un 2 sur tes 2-2, ça te fait 3-2. Imagine, juste après moi, quelqu'un met 3-3. J'ai fait d'une pierre deux coups. Je me suis défaussé d'une carte.
Ça.
Et je t'en ai fait reprendre une de plus. Et parfois, c'est pas le but initial, tu vois, mais quand ça arrive, tu dis, ah, j'ai fait un bon coup. Tu vois.
Et c'était un très bon coup.
Ouais. Et c'est assez satisfaisant. Et en plus, cette règle-là de pouvoir ajouter des cartes à quelqu'un, moi, c'est quelque chose que j'aime bien en termes de flexibilité et de situation de jeu. Il y a un autre jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle 5-3-5, que j'aime beaucoup notamment à deux. Et en fait, j'aime pas, moi, dans les jeux de défausse, notamment quand tu te retrouves à jouer à deux ou quand c'est un jeu de défausse où il y a une variante à deux. C'est, tu sais, les moments où t'as plus qu'une carte et où l'autre, ben, tu joues deux cartes. Ok, je passe. Je passe. Et c'est
ouais,
chiant.
Ouais.
C'est chiant. Et en général, alors, Je sais bien que du coup c'est que t'as mal joué et que c'est censé être une punition, tu vois, le jeu est censé te punir pour te dire bah en fait fallait mieux jouer mon gars, et à un moment tu te retrouves avec une seule carte, c'est de ta faute.
Oui, il fallait peut-être pas se finir avec ça, ouais.
Donc je comprends ça, mais en même temps, en situation, je trouve ça chiant. Ou bien, tu vois, toi, on avait joué à 13 feuilles, et toi t'avais eu ce côté-là où tu subis et où t'es obligé de passer, surtout si c'est du hard pass. Et bah tu t'emmerdes en fait, quoi. Et t'as l'impression de subir la partie et que c'est pas en plus parfois de ta faute, quoi. Alors que là, que ce soit dans 5-3-5 ou dans Dawn Up, il y a une espèce d'épée de Damoclès tout le temps, parce qu'on peut rajouter une carte à une combinaison, et donc s'il te reste une seule carte, si un adversaire pose la, je sais pas, 3-2, et que ce qui te restait c'était un 2, pouf, tu lâches ton 2 et tu dis bah merci, c'était juste ce qu'il me fallait, et dans 5-3-5 il y a un peu la même dynamique, et en fait ça crée une tension qui sinon n'existe pas, et ça crée un peu du suspense, de l'inattendu, et pour moi... C'est quelque chose que je trouve vraiment positif au niveau de la dynamique et au niveau des sentiments qu'on ressent en partie. Que ce soit, tu vois, du côté des personnes qui voient qu'il reste plus qu'une carte à quelqu'un en se disant « faut pas que je lâche les mauvaises », quitte justement à essayer de se rappeler ce qui a été récupéré ou quoi. Et puis du côté de la personne à qui il reste qu'une carte, à chaque fois que quelqu'un pose une combinaison, t'es là et tu vois, t'es attentif, et c'est peut-être la bonne. Et du coup, ça crée des émotions, en fait, qui sont pour moi, que je préfère, en tout cas, à celles où t'es là et tu te dis, bon, bah, en fait, oui, bah, je vais passer maintenant jusqu'à ce que peut-être j'ai un coup de chance. Donc, ouais, ça, c'est quelque chose que moi, je trouve très positif aussi dans The One Up, quoi. Après, moi, j'ai vu quelques personnes qui trouvaient le jeu un peu mou, alors surtout à 5, j'y reviendrai. Et puis, bon, c'est un peu, enfin, je dirais pas inévitable, parce que c'est sans doute pas le cas. Mais il y a des moments où tu n'y arriveras pas, quoi. Et tu le vois assez vite, en général, c'est si, par exemple, tu as énormément de valeurs différentes, que tu vois que même en faisant la construction de ton jeu, en récupérant des trucs, tu n'arriveras jamais à faire mieux que des paires, etc.
Ouais.
Là, bon, voilà, il y a des mains qui sont presque injouables.
Tu peux subir un peu, ouais. Et puis, si jamais tu fais deux manches comme ça et que ça se joue qu'en deux manches, bon, tu peux avoir un peu l'impression que tu n'as pas fait grand-chose et que tu n'as fait que subir, ouais. Effectivement, il peut y avoir un problème sur la... Ouais, la distribution, ouais, c'est le coup de pas de bol. Bon.
Donc voilà pour ce qui est de un peu le côté jeu, hein, et que je trouve super. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose au niveau des dynamiques de jeu, des interactions justement ou quoi, avant que je passe un peu au côté édition et justement l'évolution qu'a apporté Asmodée.
Ouais, t'as tout dit, hein. Après je peux juste enfoncer le clou sur effectivement ces situations que le jeu va créer, les rebondissements qu'il va créer. Moi c'est ça que je trouve cool en fait, c'est que ok, t'as établi ton plan de jeu. Et moi, en général, j'établis à toi mon plan de jeu, je l'établis sur 70-80% des cartes, quoi. J'essaye pas de faire un plan de jeu complet, c'est parce que tu sais que de toute façon, il va se passer des trucs. Donc, tu dis, ok, ça, je vais plutôt attendre vers la fin, ça, il faudrait plutôt que je le retourne, ça serait quand même pas mal. Je peux peut-être le poser tout seul, puis après, le reste, bon, bah voilà, on verra, quoi. Et le jeu va créer le reste, en fait, il va faire le reste, il va créer toutes les situations, les autres vont jouer, ça va rebondir, ça va revenir dans ta main, ça va... toi, tu veux retourner ta carte, finalement, elle passe, tu fais, bah, merde, en fait, ma combinaison de... mon double truc, du coup, il et tout que j'avais prévu en fait c'est une carte seule où du coup bah ma paire finalement ça reste une paire et les rebonds les coups en rebond effectivement bon, t'as parlé d'un cas qui peut arriver il y a d'autres cas qui peuvent arriver comme ça où effectivement tu vas venir ajouter des cartes et voilà
quelqu'un
quoi.
va récupérer ses cartes alors que c'était pas prévu,
oui,
quoi.
Par exemple aussi,
et que c'est pas parce que t'as mis une meilleure combinaison directement dans l'ensemble. En fait moi quand tu sais je fais beaucoup jouer à mes jeux de cartes à des gens et tout, et parfois il y a ouais bon ok c'est juste un jeu de défausse. Là tu sais à la fin, bon déjà pendant la partie il y a les petits A dont je parlais un peu enthousiaste et un peu surpris, et puis à la fin tu sais il y a un peu un côté silencieux où tu sais les gens hochent de la tête un peu genre ok. Franchement, chapeau quoi. Enfin, tu vois, un vrai différentiel de ressenti qualitatif vis-à-vis d'autres jeux de défausse, tu vois, qui sont parfois sympas, mais aussi un peu quelconques, ou qui ont des choses intéressantes. Mais alors que là, vraiment, tu vois, il y a un côté en général où, ah ouais, solide, franchement, un côté un peu respectueux, tu vois, de ce que le jeu arrive à créer avec si peu, quoi. Après, pour ce qui est de l'évolution vers la version internationale, donc il y a les visuels, mais il y a surtout en fait le nombre de joueurs et joueuses, puisque c'était dans le jeu japonais, qui était édité par One More Time Game ou quelque chose comme ça, One More Games, c'est ça. En fait, il y avait écrit que, bon déjà, il n'y avait pas la règle dans la boîte, parce que c'était un petit truc à rabat, donc il fallait aller sur le QR code, etc. Bon, ça c'est le jeu des toutes petites boîtes du Game Market, même si là, la taille de boîte de Down Up est très, très honnête, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus.
En fait, ça ressemble à une boîte d'un jeu de 32 cartes, quoi.
Ouais, c'est ça.
Enfin, je sais pas, vous imaginez les paquets de cartes de 32 cartes, il n'y a pas les règles de la belote dedans, quoi. Voilà. C'est ça.
Donc là, il y a le QR code, et donc en fait, quand tu vas voir, et donc j'ai vérifié, parce qu'il y a j'ai eu des traductions en anglais, en français, etc. Mais dès le début, il y a marqué 3-4, préférentiellement à 4. Directement de la part de l'auteur. Moi, je trouve toujours ça cool, en fait, tu vois. Tu te dis peut-être qu'il aurait fallu le faire que pour 4, mais tu vois, c'est drôle de dire, bon, bah, jouez-y surtout à 4. Et donc, Asmodée, ils l'ont fait passer de 2 à 5. Avec les... Alors, quand c'est comme ça, tu sais toujours, chez Proxyjeux, souvent, on est... Allez, on sait pourquoi vous faites ça, vous voulez vendre plus, notamment, voilà. Souvent, c'est un peu mercantile, il n'y a pas de justification. Au contraire, tu vois, quand Cocktail Games avait localisé Trio, Nana se jouait à deux, enfin était annoncé à deux, c'était nul à deux vraiment Nana, et pourtant Trio est vraiment un de mes jeux préférés, ouais. Tu vois, mais à deux c'était vraiment nul, et ben ils ont pas été idiots au Cocktail, ils ont dit on joue de la version en équipe, ils ont dit bon bah non en fait vraiment faut pas mettre à deux. Pareil pour Plan de Bataille, qui jouait de 1 à 6, bah maintenant je crois que c'est 3 à 6, très bon choix, voilà. Donc des fois les éditeurs font quand même des bons choix, mais c'est vrai que de base là tu te dis élargir le nombre de joueurs ou joueuses, c'est souvent hein, voilà, on aime pas trop quoi, enfin on voit un peu ce que ça cache. Alors ici si on joue à 5, l'esprit du jeu reste le même. J'ai joué une fois à 5, et puis quelques fois sur BGA, mais en tout cas sur table une fois. L'esprit du jeu, les interactions, le côté en bande marche, mais je trouve le jeu plus long, parce qu'en fait, un tour de table est plus long, du coup, il y a plus de combinaisons sur les tables, et je trouve que le jeu est moins dynamique que à 3 ou 4. Je sais pas si t'as essayé, toi, à la config max ou pas.
J'ai pas essayé à 5, non. J'ai essayé 3 et 4 seulement.
Ouais, je trouve que c'est plus faible, mais on garde quand même l'esprit du jeu. Et par contre, à 2, tu sais, j'étais vraiment prêt à défoncer Asmodée ou l'équipe de dev ou quoi que ce soit, parce que vraiment, c'est la config marketing, là, depuis quelques années, on a, ouais, les jeux à 2, machin.
C'est clair.
Eh ben, écoute, alors... L'esprit du jeu est assez éloigné, en fait. T'as pas exactement le même sentiment de jeu. C'est un truc plus puzzle. En fait, l'idée, c'est que t'as qu'une main, mais deux défausses. Et que tu vas jouer deux fois de suite. Une fois sur la défausse A, une fois sur la défausse B.
Ah ouais, ok.
Et donc, tu vas... En fait, t'as plus de connaissances, etc. Donc, le puzzle, il est beaucoup plus abstrait, puisque t'as beaucoup plus d'informations. Et tu vas te dire, ok, là, je vais jouer deux fois de suite. Si je pose une carte ici, la deuxième fois, je peux faire ça. Ça va lui faire reprendre ça en main. Ou bien, je reprends ça et boum, ma deuxième fois, je peux poser quatre cartes d'un coup.
Tu peux t'auto-reprendre des cartes dans ta main.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, tu vois le genre de puzzle que ça peut faire.
C'est rigolo, ouais.
Ouais, c'est... Ouais. En fait, c'est pas inintéressant. Moi, c'est pas mon truc, parce que on est plus dans du puzzle. Moi, je préfère l'esprit de jeu à 4, 3, 4, 5, parce qu'il y a l'interaction.
Oui, t'es moins dans le tapage de carton, bien sûr.
Mais honnêtement, je pense qu'il y a même certaines personnes, tu vois, plus dans le contrôle, etc., qui vont préférer cette version-là. Et autant, des fois, je dirais que c'est parce qu'il manque de goût. Autant, là, je peux le concevoir. Et les règles, c'est vraiment les mêmes, mais c'est vraiment une autre dynamique, quoi. Il y a quand même des situations intéressantes qui se produisent pas à 3, 4, 5. Du coup, je vais pas les défoncer là-dessus, en fait. Parce que s'il y a eu un peu de dev... Autant à 5, tu vois, le dev a été limité, c'est sûrement, ouais, changement de nombre de cartes ou quoi. Mmh. Autant à 2, il y a quand même eu une espèce de création de variante qui est spécifique et où c'est juste vraiment différent.
Ah, c'est presque un autre jeu, quoi. Mmh.
Et j'ai vu de bien pires variantes à 2, quoi, tu vois. Enfin, elle a une raison d'être. Disons que si vous jouez qu'à 2, je vous dirais peut-être pas de prendre Down Up, mais essayez quand même. Peut-être que ça va vraiment être votre kiff. Ça dépend vraiment des jeux. Les jeux de défausse à deux comme ça, souvent, c'est un peu faible, notamment quand c'est des jeux à deux ou plus. Des fois, ça marche quand même, quoi. Je trouve que Odin, par exemple, marche pas du tout. Je trouve que Scoot, bof. 5-3-5, ma config préférée, c'est à deux, alors que c'est un jeu de 2 à 6, je crois. Donc voilà, ouais, tu vois, même là-dessus, en fait, je peux pas râler autant que j'aimerais râler sur les éditeurs, quoi, et dire, ah là là, vous êtes là pour vendre. Donc, plutôt cool. Plutôt cool. Et pour moi, 4, effectivement, reste la config idéale. Notamment à 3, moi, j'ai un petit problème d'investissement. En fait, si vous jouez vraiment en 4 points, admettons, on se retrouve toi et moi à 3 points, et la troisième personne à 0, bah en fait, la dernière manche, il y a un ou deux qui va gagner, forcément, et puis l'autre, elle fera maximum 2. Et qu'est-ce que tu veux t'investir dans le jeu si tu vois que vas juste faire le kingmaker? Bon, tu peux te dire, bon, allez, je vais quand même essayer de faire au mieux avec ma main et t'investir juste dans la manche en te disant, bon, de toute façon, le score final, on s'en fout. J'aurais bien aimé quand même, idéalement, un truc qui évite ça, je sais pas, ce qu'on appelle un shoot the moon, tu vois, genre, alors ce serait super chiant à écrire dans les règles, hein, faites pas ça, mais un truc genre, si les deux autres ont 3 et que vous gagnez immédiatement la partie, tu vois, un truc comme ça, qui en fait, te permet de rester investi.
Ouais.
Voilà. Et à 4, ça marche... enfin, à 4, j'ai beaucoup moins eu le souci, alors que je pense que mathématiquement, tu peux te retrouver dans cette situation où t'as une personne qui joue pour rien.
Oui, ça peut arriver aussi, ouais.
Mais c'est moins le cas parce que la répartition des points au fur et à mesure, bref. Plutôt 4 pour moi, mais... Et j'ai une petite variante pour vous.
Ah, ben oui. Il faut en parler.
Involontaire, parce qu'en fait, c'était dû à une mauvaise lecture de la règle de ma part. Comme on ne peut que rajouter une carte à une combinaison, tu vois, quand je te rajoute une carte sur tes deux, par exemple, t'as mis une paire de deux, je peux pas rajouter plusieurs cartes, je suis obligé de n'en rajouter qu'une. Et ben, en fait, moi, de manière symétrique, j'avais dit dans ma tête, et j'ai expliqué comme ça au début, que prendre des cartes chez quelqu'un, t'en prenais qu'une. Et pas toutes les cartes devant. Ce qui fait que, évidemment, c'est plus fort. Parce que tu peux plus renforcer ta main. Je précise quand même que j'ai fait plusieurs parties comme ça avant de me rendre compte que je m'étais trompé. Et qu'en fait, jamais ça a créé un truc complètement fou qui assure la victoire. Donc je comprends que théoriquement, ce soit un peu plus fort. Pratiquement, bon, moi j'ai pas vu ça sur quelques parties, quoi, 5-6 parties.
C'était même... Ça crée encore plus de rebonds et de situations. J'avais trouvé ça plutôt rigolo.
Bah moi, je préfère aussi.
Faut que je la rejoue comme ça.
Moi je préfère aussi parce que, en fait... Effectivement, c'est peut-être un peu moins simple au niveau des règles, peut-être que ça crée un petit déséquilibre, mais c'est au service de l'esprit du jeu. En fait, pour moi, justement, ça rejoint ces interactions à rebond en plusieurs bandes Parce que si tu prends une carte chez quelqu'un, il va avoir plus que X cartes. Admettons que quelqu'un d'autre ait ce même nombre de cartes autour et que, en fait, c'était plus petit. Ah, et c'est drôle, et en fait, ça faisait partie des moments Eureka. Et du coup, la vraie règle retire ce moment Eureka que moi, j'aime bien. Donc, essayez chez vous. Et puis, vous me direz, moi, de toute façon, entre l'équilibrage à un pet de mouche et les émotions et le ressenti et un truc qui respecte l'esprit du jeu, je choisis l'esprit du jeu 100 fois. Donc,
Oui, parce que, enfin, sincèrement, quand je sors d'une partie de Donop en gagnant, j'ai pas l'impression d'avoir eu un plus gros cerveau que les autres, hein. Je dis juste oui, bon, j'avais une meilleure main, puis ça s'est mieux goupillé, quoi. Voilà, c'est tout, hein. Donc bon,
donc voilà pour ce qui est de l'édition. Et puis bon, après ils ont changé le nom, hein, ce nom un peu nul. Alors ils ont de la chance parce que je pense que le jeu va vraiment marcher. Dnup, sinon c'est un nom de merde. Voilà, c'est Downup, donc voilà, Revolve était très bien. Là c'est DNUP, tu vas arriver en boutique, tu vas dire bonjour Dnup, Downup, tu vas dire 26 noms, et bon, heureusement, encore une fois, comme ça marche, je pense que les ludiques auront l'habitude, donc ils vont pas être perdus, parce que moi, j'ai, pour l'anecdote, j'avais acheté Trend, T-R-N-D, de On Games. Bah, je dis, je voudrais Trend, et les gens étaient perdus. Bon, après, le jeu était vraiment nul. Du coup, il n'a pas marché, de toute façon, et personne ne sait comment ça s'appelle, ce jeu. Mais là, il y aurait pu y avoir souci. Ils ont fait ça pour le petit effet un peu visuel. Le D, le N et le U et le P, ça fait une espèce de palindrome visuel, voilà.
Tout comme les cartes qui se retournent, du coup, enfin, il y a quand même une recherche, tu vois, de design. Qui est en adéquation avec le design du jeu, tu vois, pour le coup, le design du jeu de société, quoi, le game design. Je trouve que c'est quand même plutôt bien trouvé. Voilà. Après effectivement, on peut critiquer le truc.
Bon, ils ont la chance qu'ils ont fait un jeu qui, je pense, va marcher et qui, du coup, ça posera pas de problème, en fait. Mais sinon, c'était une mauvaise idée.
Bah, disons que le nom à prononcer, oui, c'est sûr, c'est un peu, c'est pas.
Moi, je pense à chaque fois au Doo-Wop, voilà.
C'est pas ultra grand public, mais ça peut, enfin, tu vois, après, des fois, on peut être surpris, hein, c'est parce que si ça perce, finalement, le nom, il posera absolument aucun problème.
Si ça perce, on va avoir bientôt dans le dictionnaire le mot dnupé, tu vois. Hey, est-ce que ce soir on dnup? Voilà, le verbe. Et ouais, il y a quand même la volonté chez Asmodée d'en faire un carton. Alors, sans doute pas au niveau d'un Flip 7, au niveau d'un Trio, parce que c'est quand même moins accessible en termes de règles. C'est moins immédiat, en tout cas. Mais il y a clairement, en termes de marketing, cette volonté de essayer d'en faire vraiment un succès. Et c'est très appuyé, très très volontariste comme communication. Ils ont fait un site spécifique pour le jeu.
Graphiquement, ils vont aussi sur des terrains qui sont plus proches de, je sais pas, d'un Uno, ou toi, que de ce dont on a l'habitude dans le jeu de société, quoi. C'est très graphique, les couleurs sont très peps. Au niveau de la boîte, ils ont rajouté, ça c'est un truc très con, mais il y a un bout de carton qui dépasse, qui sert à accrocher dans les rayonnages. Et alors on l'avait vu.
Ça dit quelque chose de la cible visée, ouais.
Ouais, exactement. On l'avait vu, hein, pendant un temps sur des jeux du style Loup-Garou Terstelieu, etc., qui avaient le droit à des packaging spéciaux. Pour être mis en rayon comme ça, accroché là sur les, je sais pas comment ça s'appelle là, les portoirs. Là. Et c'est marrant, on retrouve ça sur Donup. Alors c'est marrant parce que c'est une languette qu'il faut découper ensuite. Quand tu ouvres la boîte, il y a des petits tirés là, puis il y a des symboles de ciseaux. Et tu dis voilà, ça, maintenant tu le découpes. mais c'est bien foutu.
Aux États-Unis, Flip 7 est marketé comme ça aussi.
Ouais.
Clairement. Bon, il y a le format des cartes aussi avec cette espèce de truc arrondi d'un côté.
Et, oui, en biseau, ouais. Ouais. Ouais.
Alors j'étais prêt à les défoncer là-dessus, hein. J'étais prêt à les défoncer sur les cartes. Moi, je trouve le visuel, là, c'est pour le coup, au niveau des illustrations, c'est Gilles Romain Fontenay qui a retravaillé le graphisme, quoi. Et franchement, je trouve que c'est pas mal, quoi. Enfin, des fois, je râle aussi sur l'adaptation de jeux japonais contre l'identité et tout. Là, on était vraiment sur quelque chose de très minimaliste et je trouve que c'est assez lisible. Effectivement, les couleurs pètent bien. Il y a des gens qui râlaient dessus, bon. Et donc, moi, j'étais prêt à râler parce que sur BGA, en fait, il n'y a pas le double index. Et donc, j'étais là à me dire, ouais, vous avez encore. Et en fait, il y est. Donc, même là-dessus, je peux pas, tu vois, râler. Il y a le double index avec des deux côtés, le rappel des nombres qui sont en bas aussi. Donc, pas grand chose à dire là-dessus, si ce n'est que peut-être qu'il y a des gens qui protègent leurs cartes qui vont être trigger par la forme des cartes. qui rentre pas parfaitement dans les protège-cartes. Est-ce qu'on aura des protège-cartes avec exactement cette forme?
Ah oui, la boostie pour se corner.
Et puis, là, on voit aussi la volonté comme ça d'un marketing très fort. Bon, j'ai dit, c'est sur BGA, c'est très joué actuellement. Il est passé en version finale et c'est très, très joué. Et à Cannes, en fait, ils donnaient des mini-boîtes qui sont le jeu complet. C'est, ouais, j'ai joué à ça avec ça au week-end proxy jeu. Alors, effectivement, les cartes sont toutes petites.
D'accord, j'avais pas vu.
Et genre, ils donnent des boîtes, ils donnent des jeux. Et
c'est
tu
fou.
vois en fait que c'est pour se dire, parce que ça a un coût, c'est pour se dire en fait si on les donne, les gens vont les faire jouer, ça va créer des achats après. Donc tu vois qu'ils misent quand même beaucoup dessus, tu vois, à plein de niveaux quoi. Donc après, moi j'ai pas de souci avec ça, hein. C'est un très bon jeu, le plus de monde joue au très bon jeu. Moi je suis ravi qu'il y ait eu plus de 500 000 ventes de Flip 7 en France, et à chaque fois que j'y joue, je me dis putain, c'est cool, il y a tellement de monde qui joue à un si bon jeu. Bah je me dirais pareil sur Down Up quoi. Le mainstream n'est pas toujours un gros mot. Voilà, si ça devient mainstream mais que c'est très bon comme ça, il y a pas de souci. Donc voilà pour Down Up, vous avez compris que ouais, chaude recommandation de ma part pour cette fin d'année. Je suis ravi d'avoir pu en parler depuis l'été dernier où j'ai pu essayer donc ce jeu de Kei Kajino chez Asmodee, puisque il y a plus d'autres studios qui est quand même fabriqué en Chine. Bon, c'est de la prod, je pense, internationale pour le coup, mais j'ai pas la boîte, moi, parce que j'ai ma version japonaise. Il y a que la VF dans la boîte?
Oui.
Ouais, donc, ouais, ok. Donc, c'est de la distribution purement française quand même, et c'est juste des cartes, on le rappelle. Voilà pour ce qui est de Down Up, et je te propose, si tu n'as rien à rajouter, qu'on passe à ton jeu.
Alors on va donc parler de Hot Streak maintenant. On dit Hot Streak, je sais pas, je prononcerai mal de toute façon.
On dit Dnup.
Dnup, ouais. On va l'appeler comme ça, non, ça va être confus. Hein. Alors, Hot Streak, c'est un jeu de John Perry. Vous en avez déjà entendu parler dans les jeux du mois, tiens. John Perry, il a fait Spot. Et c'est également l'auteur de Bestioles en guerre que tu avais traité dans un jeu du mois également.
Sacré palmarès.
Il est pas mal placé dans les jeux du mois lui, hein, parce qu'il en a pas tant que ça des jeux quand même. Donc c'est illustré par Cécile Gariepi, l'éditeur c'est CM Wiki, c'est distribué par Asmodee en France. Voilà, on fera une émission 100% Asmodee. Ça joue de 2 à 8, c'est recommandé à partir de 6 ans, durée de partie 20 minutes, et c'est en vente à la Caverne du Gobelin à 46,90€. Alors qu'est-ce que c'est Hot Streak ? Hot Streak, c'est un jeu de paris sur fond de course de mascotte. Ouais, alors je sais pas, enfin, moi je suis pas très rencardé sur les courses de mascotte perso. Bon, voilà, mais bon bref, il y a 4 mascottes qui vont prendre le départ d'une course et il va falloir en gros parier sur laquelle gagne. On parie aussi sur une situation de jeu. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, en début de partie, on va avoir révélé des cartes du jeu qui vont constituer le paquet pour la partie, et ces cartes elles vont indiquer des mouvements des mascottes. Donc les mascottes elles vont soit avancer, soit reculer, soit chuter, soit même parfois faire demi-tour, et donc ensuite on va, une fois qu'on a vu ces cartes là, c'est là en fait qu'on va parier et qu'on va se dire ok, vu les cartes qui sont en jeu, je pense que c'est plutôt l'ours qui va gagner. Bon alors il y a un ours, il y a un hot dog, hein, je vous le dis tout de suite, hein, parce que du coup on va peut-être en parler, hein. Donc il y a un ours, il y a un hot dog, il y a un poisson et il y a la reine mère, la reine d'Angleterre, voilà, qui sont en mascotte, que vous pouvez surnommer différemment. Elles ont des petits surnoms, ces mascottes, dans le jeu. Il y a pas d'asymétrie vraiment, enfin il y a une légère asymétrie parce qu'elles sont pas placées pareil sur la piste, et puis ça peut avoir une importance, mais bon, on s'en fout, les noms seront pas très importants pour l'émission en tout cas, voilà. Donc bref, une fois qu'on a vu ces cartes là, on va faire des paris. Et donc dire bah moi je pense que c'est le poisson qui va gagner parce que il a aucune carte qui fait demi-tour, il a pas de carte qui le fait chuter, donc à mon avis il va gagner. On va faire deux paris comme ça avec un système où bon c'est un peu anecdotique, on y reviendra, mais en gros on fait un snake draft, c'est un draft où bah moi je me sers, ensuite c'est mon voisin de gauche et puis et ainsi de suite comme ça, et le dernier à se servir ou la dernière va se resservir, on va retourner dans l'autre sens. Et donc comme tout le monde a récupéré ses deux paris, eh ben on va chacun et chacune ajouter une carte dans le paquet secrètement, une carte parmi 3 qu'on a reçues au début, et on va ensuite lancer la course. Donc il faut aussi imaginer qu'on a fait nos paris en fonction de la carte qu'on imagine placer, et on voit aussi les autres. On voit les paris qu'ils vont faire, ça peut influencer un peu notre la carte qu'on va mettre dans le jeu. Alors, je vais faire un truc exceptionnel dans cette émission. Attention, accrochez-vous. Toutes les cascades sont réalisées par des professionnels. Je vais aller tout de suite à la conclusion de l'émission. Je vais aller à la conclusion que vous attendez, que toi, auditeur, tu attends. Hot Streak, voilà. Bon, faut être clair, c'est un jeu qui est beaucoup trop cher pour ce que c'est. C'est un party game à plus de 45 balles, ok? C'est un jeu qui est surédité au possible. Dedans, il y a des grosses mascottes en plastique. La boîte, elle est énorme. En plus, elle est dans un format à la con. Il y a une petite roulette pour faire dérouler le tapis, avec un tapis en genre bâche, tu vois. Bref. T'aurais pu mettre un plateau, t'aurais pu mettre limite pas grand-chose, des cartes, ça marchait. C'est un jeu dans lequel on joue pas, parce qu'en fait, une fois que t'as parié, tout se résout tout seul. C'est hasardeux au possible. Le tapis de la piste de course, il a été mis à l'envers. Et en plus, il y a des cartes qui sont pas claires.
Bon bah voilà, c'était les jeux du mois.
Bon, le truc c'est que dans les jeux du mois, vous le savez, on l'a dit, c'est un format de curation, c'est un format de critique certes, donc on peut faire de la critique négative, je viens de le faire hein, quelque part, mais c'est plutôt de la critique positive en fait, hein, c'est des coups de cœur. Donc vous vous doutez que je m'en vais du coup démonter tout ça maintenant, parce que non, c'est pas ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est une émission dans laquelle il y a du suspense, il y a une progression dans le récit, dans ce que je vais vous raconter, il y a des rebondissements, il y a de la vie, hein, c'est ce qu'on expliquait sur Don't Up. C'est un jeu dans lequel il y a des rebondissements, ça crée de la vie autour de la table. Voilà. Et donc, je vais vous donner ça. Enfin, je vais tenter de vous donner ça. Et ça tombe bien parce que Hot Trick, c'est aussi ça. Et donc, je m'en vais vous le montrer. Moi, je vais essayer. J'espère que je vais tenir ma parole. Et il y a Flavien qui sera là pour m'aider en plus. Flavien, d'ailleurs, c'est grâce à toi que j'ai découvert Hot Trick, parce que c'est toi qui me l'as fait découvrir l'année dernière. Tu disais que c'était effectivement deux jeux qu'on avait découverts l'été dernier. Alors moi j'avais pas, enfin, voilà, je me renseigne pas spécialement sur ce qui se fait à l'étranger. Toi t'es arrivé avec ce machin là, et alors voilà, c'est un peu le truc, tu vois, sur la partie éditoriale, tu fais ouais, c'est quoi ton machin avec des mascottes en plastique énormes.
Tu vois à travers de la griffe, et fenêtre en plastique là.
Et oui exactement, et tu les vois à travers la fenêtre en plastique et tout, c'est trop voilà. Là, tu sens que c'est un objet presque joué quoi. Et du coup bah forcément c'est bon, c'est, quelque part c'est intriguant, quelque part tu te dis bon bah c'est peut-être un gros jeu de merde, bien c'est cool, on va rigoler parce que bon on rigole aussi hein, pas mal avec les jeux de merde. Mais en fait Hot Streak c'est un jeu, enfin quand une fois qu'il a joué tu te dis ok, les mecs quand ils ont créé ça, enfin les mecs John Perry du coup, c'est sûr il était sous acide le mec, parce que franchement, et les éditeurs qui l'ont suivi derrière, ils devaient pas être mieux. C'est un jeu, clairement, on sent que les éditeurs et l'auteur, vraisemblablement, ont voulu mettre le curseur de la mise en scène vraiment très très haut, quoi. Ils ont dit, voilà, là, il faut qu'on aille à fond, les gars. On fait tout ce qu'on peut à fond. Bah, tu vois, on le voit aussi sur le prix, quoi. C'est-à-dire, en fait, ils se sont limite pas posé de questions. Tu dis, attends, ils vendent ça à plus de 45 balles. C'est du party game. Enfin, c'est absolument en dehors de tous les clous, quoi. On fait pas ça. Dans le jeu, tu vois, ils ont, en termes de mise en scène, ils ont placé plusieurs choses dans le jeu. Des trucs qui sont même parfois un peu anecdotiques, mais en fait, tu sens que c'est tout des petites choses qui ont été rajoutées les unes au-dessus des autres, qui vont faire que ça forme un tout en termes de mise en scène, en termes de donc j'ai parlé de l'édition, mais il y a aussi ils vont attribuer des rôles autour de la table. Donc il y en a un qui va être le plus honnête, qui va jouer le bookmaker, donc c'est celui qui va organiser les paris, genre de choses. On déclare donc le plus agile comme étant le croupier, donc c'est celui qui va faire avancer les mascottes en fait. Le plus enthousiaste, le croupier c'est celui qui va retourner les cartes. Bon bref, les termes on s'en fout un peu, mais en fait ce qu'on comprend c'est que ils ont voulu que les gens s'attribuent des rôles autour de la table, tu vois ce que je veux dire. Au-delà du vocabulaire, ils ont voulu vraiment que chacun prenne vraiment...
Ouais, comme un jeu de rôle, en fait, ouais.
Un rôle clé dans le jeu et dans la mise en scène du jeu, pour que, déjà, tu te sentes un peu... tu te places au bon endroit dans le jeu aussi. Quand tu t'attribues ce genre de truc, tu sens que t'es investi de quelque chose et que, toi, tu vas participer à la bonne ambiance du jeu. Tu vois, tu impliques vraiment les joueurs comme des acteurs. Dans un jeu dans lequel, je rappelle, on joue presque pas. Et c'est presque... D'ailleurs, tu vois, je suis en train de me faire la réflexion. C'est presque du... Enfin, pas du jeu de rôle, mais c'est presque du jeu comme on dit quand on joue à un jouet, quelque part. Cette attribution des rôles. Hein, on dirait que c'est toi le croupier, on dirait que c'est toi l'opérateur, voilà, c'est toi qui va bouger les personnages, c'est toi qui distribue les billets, etc., etc., quoi. Un peu comme, basiquement, comme au Monopoly, il y a le banquier, quoi.
Ouais, ça t'incite aussi à, au-delà du jeu qui crée sa mise en scène par plein de moyens, ça t'incite toi aussi à mettre en scène le jeu d'une certaine manière pour que le jeu marche au mieux.
C'est ça, ouais.
T'en parleras sûrement, mais le jeu sinon pourrait tomber à plat entièrement, quoi.
Ouais, complètement. Alors je disais que c'est un jeu dans lequel on joue pas beaucoup. Alors c'est marrant parce que on sent quand même qu'il y a peut-être finalement une vague qui arrive. Il y a ce côté auto-battleur finalement. Une fois qu'on a fait le pari, on va retourner les cartes et en fait on va juste réaliser ce qui est sur les cartes. Donc là on est complètement dans ces jeux à la Challengers ou à la Wizard Cup. Wizard Cup que j'ai chroniqué chez Proxy Jeux, où mince, je suis en train de chercher le jeu chez Scorpion Masqué Tag Team, merci. Donc on sent qu'il y a peut-être quand même un truc qui arrive vraiment, hein. Je trouve que ça a eu du mal à décoller derrière Challengers, mais peut-être qu'il y a quelque chose quand même derrière là qui nous arrive. Et pour moi, ça se rapproche aussi pas mal de Ready Set Bet. En fait, quand tu me l'as présenté, je pense qu'on a assez vite fait le parallèle avec Ready Set Bet,
oui.
Qui est un jeu de John Declair qu'on avait essayé. Enfin, moi, j'avais essayé à Essen. Il m'avait pas vraiment convaincu, mais le principe, c'est un peu le même. C'est-à-dire que, enfin, dans les grandes lignes, c'est le même. C'est-à-dire qu'on va faire des paris. Il y a une course qui va se dérouler. Selon des éléments aléatoires. Alors là, je crois qu'on lance des dés, je crois, dans Ready Set Bet.
Ouais, on lance des dés ou on laisse l'appli lancer les dés, ouais.
Ouais, c'est ça.
À la Ken Stop, un peu, qui va favoriser tel ou tel cheval. Quand même, il y a des probas, mais ça va être comme dans Ken Stop,
ouais,
le
c'est
hasard,
ça.
Quoi.
Ouais. T'as pas cette révélation du départ comme t'as dans Strike, où tu connais tout un tas de cartes. Donc tu peux te faire un espèce de plan de ce qui peut se passer. Là c'est le hasard du tirage des dés. Sauf que dans Ready Set Bet, là où ils sont pas allés assez loin peut-être justement, c'est parce que ils ont voulu que les joueurs continuent de jouer pendant la phase
oui.
Où on joue pas.
c'est
pas clair dit comme ça, mais voilà, en fait les paris,
ouais, mais en gros, on peut parier pendant la course, quoi.
C'est ça, tu paries pendant la course. Ça transpose le jeu dans une dynamique complètement frénétique, hein. On est dans autre chose en fait avec Ready Set Bet.
Il y a un côté où tu dégaines dans Ready Set Bet, t'es là, il faut dégainer au bon moment pendant la course, et même thématiquement ça se tient, ouais.
Ouais, ouais. Bah thématiquement ça se tient dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire fantasmé de la course hippique, en réalité, je suis pas sûr que tu puisses vraiment aller au guichet pendant la course hippique et puis aller parier sur un canasson. Je crois pas.
Hein. Ouais.
Ça, je pense que c'est que dans les films.
Je sais pas, dans les paris en ligne, en tout cas, tu peux parier pendant un match, tu vois. Donc je me dis, si tu paries en ligne sur un PMU, sur une course hippique, peut-être que tu peux aussi parier pendant la course. En tout cas, ce que tu peux faire, là c'est Roland Garros, tu peux parier pendant le match de si tu vois que ça se passe pas bien,
ouais,
mais
okay,
tu vas avoir des
ouais.
moins bonnes cotes, quoi.
Et donc ouais, John Declair, lui, il a voulu placer le curseur sur le côté frénétique, je pense, et c'est assez brouillon sur cet aspect-là, parce que en fait il y a tellement de types de paris possibles que typiquement quand tu fais ta première partie t'es complètement paumé, tu fais la deuxième c'est pas beaucoup mieux, et peut-être qu'à la troisième tu commences à comprendre ce que tu peux faire vraiment, mais du coup bon voilà, c'est ça m'a pas vraiment convaincu. Et là, Outstrike, il a fait le pari d'abandonner cet aspect-là et de dire, ok, cool, on laisse filer, on laisse couler. Il va se passer ce qui va se passer. Voilà. Tout le monde a fait son pari avant, donc c'est pas du tout le même rythme, c'est clair. C'est pas du tout le même jeu, avec la même idée finalement, le même principe. Tu vois, enfin, je le décrirai en trois lignes. Je ferai les mêmes lignes. J'écrirai peut-être à peu près la même chose. Et finalement, c'est pas du tout le même jeu.
Ouais, après c'est le propre des auto-battleurs d'être des gens du lâcher prise, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup, c'est tu prévois un truc et après tu vois où ça te mène, et c'est en fait ton poids sur le jeu il a déjà eu lieu, et maintenant tu constates le chaos se révéler ou non, et c'est beau, quoi. Enfin tu deviens spectateur des choix que tu as pu faire à la ou dans Ready Set Bet, tu continues à faire des choix, donc t'es encore acteur, et c'est sûrement pour conserver un peu une espèce d'illusion du c'est un jeu, on est encore en jeu, etc., mais au sacrifice de effectivement la mise en scène et l'implication, quoi.
Et du coup dans ce genre des auto-battleurs, on va retrouver typiquement je vais sûrement avoir à peu près le même speech que celui que j'ai eu avec Wizard Cup, hein. C'est que la prise de décision, elle est déplacée sur l'avant-match et elle est hyper importante en fait. T'as même dans Outstrike, tu peux parfois avoir des cartes qui sont complètement game changer sur le jeu. J'ai fait une partie pas plus tard qu'hier. Ça joue en trois manches normalement. Il y a trois courses. Et à la deuxième course, on va venir rajouter. Enfin, on va jouer avec les mêmes cartes en fait. On aura encore deux cartes en main. On va en reprendre une du paquet au hasard. On va redistribuer des cartes du paquet au hasard. Donc du coup, forcément, ça va changer. Il y a une carte il y a des cartes qui seront parties. Et on va à nouveau en remettre une. Et ce qui s'est passé à la première manche, voilà, avec ma fille, elle parie sur la reine. Moi, je la suis et je mets même une carte qui favorise la reine, tu vois. Donc, évidemment que du coup, je vais la suivre. Et je me dis, si ça se trouve, elle aussi, elle avait une carte pour la favoriser, puisqu'elle a misé dessus. Deuxième manche, et ça se passe plutôt bien. Je sais plus, elle finit première ou deuxième, bref. Deuxième manche, là, j'avais encore dans ma main une carte qui fait en sorte que la reine part à l'envers, elle se retourne. Donc là, évidemment, je ne parie plus sur la reine et je mets cette carte dans le paquet. Et là, c'est tellement jouissif quand tu vois que ça arrive vraiment. C'est-à-dire, à un moment, on déroule le paquet, la reine part à l'envers. Et là, ma fille, elle fait « Non ! Non, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est pas possible !» Et là, toi, tu rigoles. Elle te voit, elle te fait « C'est toi qui as mis cette carte !» Et tu dis « Oui, c'est moi qui ai mis cette carte !» Et voilà, et en fait, le jeu, c'est ça, quoi. C'est des situations de ouf. Tu vois les personnages avancer de deux cases, de une case, ils chutent, ils se retournent. Et à chaque fois qu'il y a un mouvement comme ça, incongru, d'un mec qui chute, d'un mec qui se retourne, d'un bonhomme qui en fait, enfin, qui en bouscule un, ben en fait, il y a un cri autour de la table, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui fait « Mais non, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ? Ah !» Et c'est que ça. Pendant tout le déroulé de la course. Et t'es vraiment là, mais tu vis la course, quoi. T'es là, tu supportes ta mascotte, qui est absolument grotesque. En fait, quand tu regardes la situation de loin, mais tu dis « Mais que font ces gens ? Que font-ils autour de cette table ?»
Bah c'est un jeu, où ça, c'est agréable de jouer avec des gens autour, parce que... ça fait partie de ces jeux où effectivement les gens vont se tourner vers ta table et se dire ouais, qu'est-ce qu'ils font. Alors ça peut être des jeux plus hors de Overload et aussi comme ça, pas pour les mêmes raisons.
Oui, oui, pour d'autres aspects, ouais. Effectivement. Ouais. Oui, on est carrément dans autre chose. Dans hors de Overload, tu vois des gens qui sont crispés, les yeux fermés, les mains sur les yeux, les mains sur la tête, concentrés à essayer de rechercher des mots. Oui, c'est autre chose. C'est autre
Alors
chose.
Que là, tu vois cette grosse boîte, ces personnages complètement débiles.
Donc là, t'as cette partie-là où la prise de décision, elle est quand même hyper importante dans la carte que tu vas mettre. Alors, évidemment, c'est pas toujours le cas. Là, j'ai cité l'exemple j'ai envie de dire l'exemple canonique de ce qui fait que le jeu est absolument hilarant. Mais t'as aussi les paris que tu vas prendre. Ils ont deux faces. Voilà, il y a une phase qui dit sécuriser, l'autre qui dit risquer. Donc là aussi, t'as un choix à faire. Et le risquer peut même parfois, s'il échoue, te faire perdre de l'argent. Enfin, des points, dans le jeu, c'est de l'argent qu'on va accumuler. Et en fait, tu sens vraiment quand même, quand t'as fait ce pari, et qu'en plus, tu l'as mis en risqué, tu fais « Oh, quand même, merde, j'ai vraiment fait de la merde, quoi. » Soit tu sens que le poids, il est chez toi. C'est-à-dire que c'était vraiment purement ton choix de faire ça. C'est pas... ni forcément grâce à toi ou à cause de toi que la mascotte sur laquelle t'as parié a perdu, mais je trouve que bah rien que de faire ça, rien que de donner encore un choix sur le pari, bah ça t'implique plus, je trouve.
Ouais, c'est clair. Et pour revenir sur la mise en scène un peu, tu parlais des sous qui sont les points de victoire, c'est là aussi des petits billets un peu qui collent totalement à l'esprit du jeu.
Exactement.
Et moi, je trouve quand même, c'est incroyable comment, justement, en termes de prix sur le jeu, tu vois, on pourrait se dire, tu l'as dit, que c'est totalement random. Et en fait, tu rajoutes, t'as trois cartes, t'en choisis une que tu mets dans un paquet de 20 cartes. On pourrait se dire, franchement, c'est ridicule, quoi. Autant rien mettre, autant dérouler le paquet. En fait, si tu joues à 7 ou 8, tu rajoutes 7 ou 8 cartes, quoi. Enfin, c'est quand même beaucoup, finalement. Et toi, t'en es une parmi ces 7 ou 8, certes, que peut-être t'as réussi à faire un peu discuter avec d'autres personnes et compagnie. Mais finalement, c'est, t'as l'impression de rien faire et pourtant c'est pas si anodin de mettre une carte. Et je trouve que et pareil, tu vois, sur comment tu prends les infos, tu l'as dit au début, on voit ce deck de cartes, donc on a l'info un peu, on se fait le film de, alors attends, là c'est à peu près comme ça, donc ça devrait favoriser telle personne, toi t'es plutôt vers l'extérieur, donc machin. Alors si je rajoute ça, peut-être que ça va rajouter ça. Les manches suivantes, je crois que tu regardes pas à nouveau le paquet.
Non.
Mais par contre, t'as le classement précédent qui est encore en place.
Oui.
Sur le podium, là. Et du coup, c'est une information aussi en te disant, alors attends, là, c'est elle qui a gagné. Donc si je rajoute ça, machin. Et du coup, t'as quand même une prise d'information qui aide à la décision. Et du coup, t'as quand même l'impression d'avoir du. Enfin, tu vois, tu prends pas une carte parmi les trois au hasard. Et c'est pas grand chose, mais je trouve que ça suffit à s'impliquer en termes de choix. Pour le scope du jeu, quoi.
Ah ouais. En fait, je trouve qu'il y a plein de choses dans le jeu qui sont faites pour effectivement que t'aies de l'implication. De cette mise en scène des rôles, tu vois, à ces choix que tu fais, Le pouvoir que tu peux avoir ou pas sur effectivement sur la carte, bah les effets de surprise que créent les retournements de cartes, enfin la course en elle-même, parce qu'en fait du coup tout le monde va devenir acteur finalement de cette dans cette scène. Puis quand on avait fait l'émission sur le dossier sur la mise en scène, on avait ces réflexions de dire ok en fait mais où se trouve la scène de jeu finalement? Et là, on est dedans, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les joueurs sont vraiment partie prenante et tu peux les regarder. C'est une espèce d'autre dimension que ça va te donner à cette scène et tu vas les voir comme des acteurs au théâtre, quoi.
Ouais, et c'est fou parce qu'en fait, tu pourrais te dire, bah en fait, nous on contemple le truc qui se déroule, tu vois, comme quand tu regardes effectivement une course sur laquelle t'as parié ou un match sur lequel t'as parié, et donc t'es impliqué parce que t'as parié, donc t'as mis toi dedans et tu espères une certaine issue. Sauf que là, c'est comme si t'avais, je sais pas, donné les trucs de dopage en même temps aux participants. Et c'est quelque chose qui n'existe pas trop, quoi, en fait, dans le sport, tu vois, le fait que le spectateur ait un impact réel directement
Ouais, c'est vrai, ouais.
sur les personnes, les individus, les mascottes, les bêtes qui courent. Et du coup, t'es encore plus impliqué. Il faudrait qu'il fasse un sport comme ça, du coup.
Il doit y avoir des films de SF ou des trucs comme ça où il y a des choses comme ça, non? Ça m'évoque vaguement quelque chose. Des trucs comme ça où
Peut-être,
t'as
ouais. Ou bien, tu vois,
des...
c'est toi qui as payé les chaussures du marathonien, j'en sais rien, tu vois, un truc comme
Ça
ça,
me fait penser,
ou en fait,
tu sais, à ces live Twitch où les gens ils jouent à un jeu vidéo, mais en fait c'est les viewers qui vont faire des votes sur ce qu'ils vont jouer, par exemple. Hein.
Ouais, carrément. Ouais, c'est très, très, très similaire, ouais. Ouais, t'as raison.
Et il y a aussi ce côté où, bah, en fait, tu regardes, tu sais, tes partenaires de jeu, tu regardes les réactions qu'ils vont avoir sur certains trucs. Typiquement, quand ils ont parié sur, je sais pas, le poisson, et que le poisson il se retourne, tout de suite tu regardes celui qui a parié sur le poisson. Quoi, alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, c'est vraiment. Et je me demande du coup, je me suis fait cette réflexion, si on n'était pas à l'orée de peut-être d'un nouveau courant dans le jeu de société, qui seraient ces jeux spectacles dans lesquels vraiment t'es à la fois dedans, à la fois pas complètement dedans, tu laisses filer quelque chose, en même temps tu regardes la scène. Tu vois, je pense bah, Challengers, Wizard Cup, ils vont créer ces atmosphères-là, c'est des auto-battleurs, mais il y a aussi des jeux comme, je pense à La Colline au Feu Follet, tu vois, où il y a ce
Ouais,
côté où tu
carrément.
regardes cette bille qui descend. J'ai l'impression qu'on se permet un peu plus dans les jeux d'aussi observer finalement ce qui se passe. Moi, il faudrait que je prenne un peu plus de recul pour voir si c'est juste simplement le courant auto-battleur qui arrive et qui nous procure ça, ou est-ce qu'il y a autre chose? Parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a ce côté, comme je disais dans Road Strike, tu vois, où ils ont dit au niveau éditorial, vas-y, on y va à fond, quand on pousse le curseur à fond. Bon, moi, ça fait partie aussi de ça, c'est de dire, en termes de matériel, on va aussi planter le décor d'un truc que les gens ils vont avoir envie de jouer, de regarder, toi il y a des choses qui sont arrivées peut-être un peu par Exploding Kitten aussi, qui est devenu le nom de l'éditeur. Je pense il y a un truc qui s'appelle le Pigeon Explosion, tu vois, il y a les trucs avec les ah mince, comment ça s'appelle là, les trucs en mousse là, les qui sont faits aussi hein, chez eux là, c'est des
Burrito là,
ça
truc
ressemble à des espèces de
burrito.
gros tacos, ça, les burritos, tu vois,
Aïe, burrito,
enfin.
quelque chose comme ça, ouais.
Ouais, c'est un truc comme ça, je me rappelle plus du nom du jeu. Et on ose peut-être un peu plus aller vers des jeux joués dans une gamme de jeux qui est pas non plus l'action game du supermarché, tu vois. Où c'est deux milieux finalement qui finissent par se rejoindre, tu vois, un peu comme finalement les deux extrémités d'une droite qui finalement bah, viendrait se rejoindre, et bah, on se rendrait compte qu'au final tout ça c'est un peu pareil, quoi. Ça reste du jeu au final, mais avec des designs qui sont pour le coup
Ouais.
intéressants.
Des bons jeux, quoi.
Voilà, des bons jeux, ouais, exactement, on peut le dire comme ça.
Et parce que, en fait, le jeu spectacle, on l'avait, mais dans le genre très précis du jeu de mime. Et du
Ouais.
coup, le spectacle était fait par les personnes. Alors que là, c'est le jeu lui-même qui est spectaculaire et spectacle. Et qui est une scène, en fait, en elle-même. Les joueurs et joueuses aussi, tu vois, on en fait partie. Mais c'est deux strates différentes. C'est pas, le jeu vient pas directement de ce qu'en font les joueurs et les joueuses. Le jeu existe par lui-même pour créer ce spectacle, quoi.
Voilà, bon, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous raconter? Bon, on a dit que le jeu était... Je peux reprendre mes points négatifs pour voir un peu comment j'étais censé les démonter. Hein. Le jeu est trop cher pour ce que c'est. Bon, bah ouais, mais en fait, le truc, c'est que à un moment, moi, j'achète pas juste un jeu par rapport à son prix. Je l'achète aussi par rapport à ce qu'il provoque comme plaisir. Je repense peut-être à un jeu qui était peut-être aussi trop cher pour un party game, c'était Captain Sonar, tu vois. Captain Sonar, enfin, quand tu joues à Captain Sonar, ça fait partie incroyable, quoi.
Oui, et puis le prix est une critique produit. Tu sais ce que je disais sur le, c'était quoi?
Exactement.
C'était dans le dossier sur l'éthique et la morale. On peut critiquer le produit, ça enlève en rien la qualité artistique de l'offre, quoi.
Bon, le critère on joue pas, hein, vous avez compris. Le hasard pur, bah oui, il y a le hasard, mais en fait c'est un hasard que le jeu assume et que
Un
on a
jeu de hasard
envie
contrôlé,
de
et
hasard
ça n'héritait de
contrôlé.
thème.
On va influencer dessus en plus, effectivement. La piste à l'envers. D'ailleurs, je parlais de la piste à l'envers. Cette piste à l'envers, c'est vrai que on en a pas mal parlé ensemble. Et en fait, c'est à la fois un truc un peu effectivement un peu gâché, mais en même temps. Alors, pour essayer d'expliquer, parce que là, c'est pas du tout podcastique. Donc, on déroule une piste. C'est vraiment, il y a une molette sur le côté, et donc quand on met en place le jeu, on va tirer sur la piste, ça va dérouler la molette, et puis donc ça va mettre en place la piste. Et bah, les figurines, elles partent du bout de cette piste pour arriver jusqu'à la boîte qui sert de podium. Et donc effectivement, quand elles arrivent, bah, elles se posent sur le podium qui est juste là où elles viennent d'arriver, quoi.
Bien
Mais
sûr.
quand on fait, quand la partie dure un petit peu entre guillemets, quand la course, quand il y a beaucoup d'événements dans la course, hein, on va devoir remélanger tout le paquet et on va donc remélanger le paquet et relancer une espèce de deuxième manche. Si on veut, c'est toujours la même course, mais voilà, les filles, tout le monde n'est pas arrivé, en gros, voilà. Donc on relance le paquet. Et à ce moment-là, on va rabattre, en fait, on va raccourcir la piste. C'est-à-dire que ceux qui seraient à l'arrière de la piste, du coup, bah, ils vont perdre automatiquement.
Comme dans Thunder Road Vendetta, quand tu changes de plateau
Ouais,
un peu.
c'est ça. Un peu comme juste un tapis roulant, entre guillemets, quoi, je sais pas. Bon, bref, il y a la partie du bout qui s'en va. Et donc pour ça, du coup, on va rabattre. Et on aurait tellement envie d'enrouler la molette pour dire, ah bah, hop, ça se rabat. Mais non, c'est dans le mauvais sens. Voilà, donc là, ils ont dû faire un choix dans la mise en scène. Est-ce qu'on met l'accent sur le podium ou est-ce qu'on met l'accent sur la piste qui se réduit? Bon bah ils ont choisi le podium, voilà. Je pense qu'il y avait peut-être pas de choix idéal. Peut-être qu'ils auraient dû essayer de trouver autre chose, j'en sais rien, ça se trouve, ils auraient peut-être dû faire le podium, je sais pas, quitte à aller au bout, tu vois. Peut-être qu'ils auraient dû faire un carton avec le podium qui se
Peut-être,
sépare,
ouais.
tu vois. Un truc amovible. Bon, voilà. Ils se sont quand même arrêtés là. De quoi je voulais parler d'autre encore? Je voulais parler des. Bon, on l'a abordé hein, sur l'ordre des paris. C'est un rythme. Le rythme est un peu. C'est pas la meilleure partie du jeu en fait. Le moment où on fait les paris, surtout si on est nombreux, parce qu'il y a un moment t'attends. Voilà, tu regardes qu'est-ce qui reste. Hein, bon, voilà. Mais ça rentre quand même pas mal en ligne de compte dans la partie justement prise de décision, parce que tu regardes
Bah
ce que
ouais.
les autres ont fait. Et en fonction de, alors si en plus c'est pas la première course, donc où tu sais qui a déjà marqué pas mal de points, etc. Donc c'est là que tu vas commencer à placer des choses trappes, éventuellement. Ça a quand même un rôle dans le jeu, cet ordre de sélection des paris. Ça peut créer des alliances de circonstances et ça peut aussi te permettre toi de faire l'inverse, hein, d'aller éventuellement démonter un ou deux joueurs, peut-être en faisant une alliance aussi d'ailleurs.
Ouais, et puis la notion de snake draft est assez évidente là-dessus. Hein, Magical Athlete slash athlète de compète fonctionne aussi comme ça pour les pouvoirs des personnages. Mais c'est sûr qu'en fait, c'est les moments de décision, encore plus dans athlète de compète pour le coup. Mais en même temps, c'est un peu mou. Est-ce qu'il y a une solution autre que distribuer des trucs random? Je suis pas sûr et je suis pas sûr d'avoir envie qu'on me distribue des trucs random.
Bah, en fait, ils ont, il y a une variante à plus de 9 où finalement tout le monde fait des paris en même temps, et donc pareil sur ce qu'il
Ah
veut.
ok.
Alors, je l'ai pas essayé, mais on voit qu'en tout cas, ils avaient d'autres idées potentiellement, puisqu'ils proposent ça.
Bah, du coup, moi, c'est vrai que tu vois, la version A9 me paraît pas intéressante parce que du coup, quand ça revient à toi alors que t'es premier, en fait, t'as plus de choix. C'est un jeu, ouais, j'aime bien jusqu'à 6-7. Après, au-delà, je trouve que cette phase devient trop longue, etc., et que les choix sont moins intéressants.
Bah justement, c'est en fait tu joues jusqu'à 8 comme ça, et effectivement déjà à 7-8, effectivement t'as déjà plus trop de choix quand même quand ça arrive à toi à la fin pour
Ouais,
les
c'est
paris. Et
ça.
à 9, en fait, du coup, enfin au-delà, tu peux jouer, ils te disent mais ouais, il faut faire des paris simultanés et tout le monde peut parier ce qu'il veut finalement. En fait, tu dois parier sur une mascotte plus tu dois parier, tu dois te dire oui ou non sur la situation. J'en ai pas parlé de cette situation.
Ouais, moi c'est quand même un des points négatifs du jeu, je trouve, ces situations. Je trouve que l'idée est super parce que justement ça met en valeur les situations qui se créent pendant la course, qui sont absurdes, qui sont débiles, qui sont trop drôles, qui sont une vraie narration. Je trouve que la plupart des situations sont pas très inventives ou trop répétitives. Je trouve que là-dessus, ça aurait mérité plus de
Ou
travail.
pas hyper clair.
Ouais, oui aussi, ouais.
C'est celles-là qui sont pas toujours hyper
Moi,
claires.
c'est le point le plus faible du jeu pour moi, alors que ça devrait être un des points majeurs, puisque justement, ça met l'accent sur ces situations, quoi.
Ouais. Mais à la limite, on pourra en inventer. J'ai pas regardé sur BGG, il y a peut-être des gens qui en
C'est
ont
possible,
inventé,
ouais.
hein, des plus rigolotes, hein.
Et puis pareil, tu vois, il y a Yes No, enfin, ils ont pas fait de recto verso dessus, alors que ça coûtait pas grand-chose, je crois, tu vois, enfin, y a un truc comme ça où ça aurait pu être encore plus riche, encore plus de. Pour pas
Ouais.
grand-chose en coût, quoi.
Plus de contenu, quoi. Ouais. Voilà. Et pour finir sur l'aspect mise en scène, enfin, mise en scène et aussi le côté où tu sens qu'ils se prennent pas au sérieux quand même. Il y a un petit background pour chaque mascotte. Alors, je les ai lus. C'est complètement débile. Au point même d'ailleurs qu'il y a des trucs que je comprends pas trop bien, j'avoue. Je me demande même si ça a été bien traduit, je t'avoue.
Ouais, après les trucs de mascotte comme ça, c'est enfin moi ça m'étonne presque qu'ils aient gardé le thème ou quoi, parce que j'ai l'impression que c'est très spécifique aux États-Unis peut-être, et que ça parle peut-être là-bas, tu vois, peut-être que c'est des références là-bas alors que nous
Oui.
on les aura pas trop, ce qui fait que quand on jouait en anglais, pareil, nous on n'utilisait pas du tout les noms anglais parce que c'était pas du tout adapté à notre pratique à nous.
Oui, bah là-dessus, faut avouer que, alors effectivement, je pense qu'il y a des trucs que j'ai pas compris parce que je pense qu'il y a des refs que du coup j'ai pas compris. Mais ça veut dire aussi qu'ils ont pas trop fait l'effort au niveau de la trad d'essayer de transposer. Et pareil, dans la règle, t'as un QR code pour accéder à une vidéo règle. Mais en fait, la vidéo règle, elle est en anglais, quoi. C'est la vidéo d'origine, en fait.
Ok.
Donc,
Ah oui, c'est dommage, ouais. Mais ils avaient le
bah
même
oui,
problème sur Daybreak,
bah oui.
qui est aussi de CMYK, qui.
Voilà, donc
Waouh!
ils ont pas fait mieux là. Donc tu dis, ah bah c'est cool, tiens, la vidéo règle, et puis en fait tu vois en dessous, déjà tu vois le lien, tu fais il y a le lien qui est écrit quand même en dessous du QR code, tu fais il n'y a pas de FR à côté, il n'y a pas de ça a l'air d'être quand même l'adresse d'origine. Et bah oui, ça a pas manqué, voilà.
Ouais.
Mais bon, pour revenir sur une note positive, là où encore une fois ils ont poussé le curseur à fond, le potard à fond sur le à la fois le grotesque, c'est que à la fin, bah quand t'as fini la partie, tu peux donc t'as gagné une certaine somme d'argent, donc tout le monde compte son argent, donc il va récupérer ses sous au guichet, et là bah tu vas pouvoir regarder à la fin selon combien t'as gagné d'argent. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu fais de ton argent, en fait? Et alors, le truc, c'est que systématiquement, en fait, tu claques tout ton argent déjà, tu vois? Donc, à la fin, c'est le plus riche qui gagne, mais bon, en fait, enfin, tout le monde claque tout son pognon. Donc bon. Et c'est toujours des trucs complètement débiles. Alors, c'est pas tout à fait vrai que tu claques. En gros, ils te disent qu'est-ce que tu fais de ton argent? Et puis bon, souvent, effectivement, tu vois que tu as claqué ton argent. Des fois, il y a des trucs un peu nuls, hein, mais bon, tu vois, 66, c'est pas mal. Mais moi, j'ai quand même fait un super score hier, que je vais du coup vous spoiler. J'ai fait 96
C'est un
dollars.
sur beaucoup, il y a beaucoup de sommes d'argent qui
Ouais.
sont écrites.
Oui, bah il y en a 100, donc je peux vous en spoiler un quand même. Et puis est-ce que vous arriverez un jour à faire 96 dollars? Franchement, je ne sais pas. Voilà. Bon. Vous pouvez enfin acheter à la boutique du stade le Bob disant j'ai gagné 96 dollars aux courses de mascotte et tout ce que j'ai c'est ce Bob à 96 dollars soi-disant top qualité. Voilà. Donc tu vois, c'est débile jusqu'au bout.
Je sais pas, l'écriture est bien en français aussi parce qu'en anglais c'est très drôle et des fois justement sur des trucs un peu humour, la trad est difficile. Toi, ça, t'as trouvé ça drôle aussi ou ouais,
Bah,
les autres phrases, ouais.
pas toujours,
Ouais.
mais celle-là, j'ai trouvé pas mal, toi. C'est écrit en caps lock, évidemment, pour bien montrer que c'est,
Évidemment, mise en scène toujours.
voilà, exactement. Donc, on sent que c'est un jeu qui s'assume, quoi. Voilà, c'est un jeu qui s'assume à 1000%. Si pour vous, Trick, c'est ce que j'ai donné comme conclusion négative, ben, clairement, passez votre chemin, vous allez. Je suis pas sûr qu'on puisse sortir de cette idée-là, tu vois. C'est le genre de jeu, si tu pars négatif, c'est négatif, quoi. Voilà. Si tu joues pas aussi le truc à fond, c'est-à-dire que si t'as pas le croupier qui va annoncer les cartes, l'opérateur là qui avance les trucs et qui en joue un peu, en fait, il faut comprendre que c'est aussi un peu un jeu joué. Et il faut pas avoir peur, finalement, de jouer. Avec ce jeu. et se jouer et bah de pas se prendre au sérieux en fait. C'est un jeu qui se prend pas au sérieux. Ça aurait pu être un nanar, franchement. Ça aurait pu être un nanar. Mais pour le coup, bah, il réussit en fait ce qu'il cherche à faire. Et du coup, ça l'est pas.
Si vous êtes du genre à être à une table où il y a des gens un peu timides, prenez la place de la personne qui va animer. Parce que je pense que si on commence une partie où juste on dépile et juste on avance en silence les mascottes, bah ça va être un gros bide. Et en fait, le jeu vous donne tous les outils pour, mais il faut un moment s'en emparer. Parce que si vous vous en emparez pas, en fait, ben oui, effectivement, ça peut être le jeu le plus chiant de la planète, enfin la partie la plus chiante de la planète. Et pourtant, je pense que ce sera pas la faute du jeu, parce que je trouve que le jeu fournit des outils suffisants.
C'est marrant parce qu'au final, tu parlais de jeu de rôle, et j'étais pas hyper convaincu, mais en fait, c'est quand même une dynamique aussi que tu trouves dans les jeux de rôle. Si tu t'investis pas un peu, bah en fait ça va tomber à plat quoi. Il faut que tu joues un peu ton personnage, il faut que tu donnes un petit peu de toi pour que l'expérience elle soit satisfaisante et pour tout le monde aussi, tu vois, parce que
et du coup c'est un jeu AMJ entre guillemets où il faut que un moment peut-être la personne qui est la plus à l'aise et qui sait comment fonctionne le jeu prenne ce rôle au début pour créer un peu le mood. Et en général, si une personne n'a pas peur de, enfin, n'a pas l'impression de se ridiculiser, etc., en fait, la partie va prendre même s'il y a des personnes timides. Par contre, si elle laisse cette responsabilité à quelqu'un, ben, la personne va pas être à l'aise, etc. Moi, j'ai vu des parties où pourtant c'était pas des personnes censées rentrer dans le jeu. Et pourtant, ça a été le cas parce que la bonne personne pour mettre en scène. Et du coup, en fait, les personnes sont rentrées dans le jeu de rôle en question, quoi. Mais c'est sûr, hein, ça peut flopper.
Alors, le jeu, il est donné pour 6 ans. Enfin, moi, franchement, mes enfants, quand ils jouent à ça, mais c'est l'euphorie. Hein. C'est, toi, en ce moment, il y a ça et Lightspeed Arena.
Ah ouais.
C'est un peu le même combat, quoi. Ils sont vraiment euphoriques quand, enfin, les situations qui sont créées, on sent qu'ils les vivent vraiment à fond, quoi.
C'est deux jeux à résolution.
Mais c'est un jeu qui est au-delà, ouais, c'est un jeu qui est quand même au-delà de, au-delà de la frange jeu pour enfants, quoi.
Oui, complètement.
Mais il est donné à partir de 6 ans, donc c'est dire à quel point ça reste accessible et les enfants ils trouvent leur compte. En tout cas, c'est pas non plus un jeu, ça peut être important à dire, effectivement, c'est pas parce que j'ai parlé de Expedient Kingdom, machin, on pourrait se dire c'est ça va sur le terrain du graveleux, mais non, pas du tout. Ça va pas du tout sur ce terrain-là, et donc oui, c'est tout à fait ok effectivement à 6 ans, quoi. Y a pas de problème.
Oui, et puis c'est pas ringard aussi. Là, c'est pas pour la question de l'âge, mais en fait, les Exploding Kittens, etc., c'est plus ou moins des repompes d'autres jeux. Là, c'est un jeu extrêmement moderne. En fait, John Perry est un auteur contemporain assez important, qui sait, qui connaît son sujet, qui connaît l'auto-battleur, qui adapte l'auto-battleur aux jeux de paris et de course, ce qui avait pas été fait, il me semble. Donc en fait, y a une modernité dans Hot Streak qui fait que c'est complètement un jeu de 2025. Et où il aurait pas pu sortir en 2020. Et c'est un vrai jeu d'auteur, soutenu par une édition de CMYK qui est au taquet. Et CMYK, alors moi j'ai des problèmes avec CMYK, et notamment le mec qui dirige ça, qui a des arguments de merde sur BGG pour défendre des trucs indéfendables. Notamment, d'accord, tu vois, sur Daybreak, c'est un truc sur l'écologie, etc. Enfin, en tout cas, et derrière, ils font la gamme Magenta, là, où c'est des petits jeux de cartes qu'ils mettent dans des boîtes ultra surproduites.
Ah ouais, les boîtes énormes.
Enfin,
ouais.
Et à un moment, il n'y a aucune cohérence là, dans leur discours. Et en plus, lui, il a des arguments merdiques. J'aime vraiment pas du tout la communication de cette boîte d'édition. Mais en termes d'édition, tu vois, enfin, ça sort pas de nulle part, Outstreak. C'est Lacuna. Tu vois, un jeu abstrait à la mise en scène incroyable. C'est Wavelength, tu sais, longueur d'onde.
Ouais.
Grosse mise en scène. C'est Magical Athlete. Vous en entendrez parler sûrement dans les jeux du mois en fin d'année. Athlète de compète, mise en scène incroyable. C'est des gens qui font des éditions à la hauteur de ce qu'ils veulent transmettre comme jeu. Spots, Pionf avait aussi soutenu la mise en scène. Donc, il y a un côté l'auteur. C'est un auteur important qui fait un truc moderne. Et c'est soutenu par une édition qui va... donner au jeu son bel écrin, quoi.
Une belle conclusion. Bah écoute, je sais pas, t'as d'autres choses à ajouter de ton côté ?
Non, bah moi je te rejoins. C'est bien qu'il soit en jeu du mois. Pour moi, c'est un de mes jeux préférés de 2025, du coup, avec Thunder Road, Vendetta et Magical Athlete. Et c'est trois jeux très différents, mais que je rapproche énormément parce qu'en gros, c'est des promesses. Tu vois la boîte, ça promet un truc. Et là, tu te dis, waouh, c'est des promesses de mise en scène, des promesses d'ambiance. Et en fait, ces trois-là, ils sont là et. Bah, c'est exactement ce que t'en attendais et c'est d'une cohérence incroyable. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans les jeux de société, c'est un truc cohérent où, bah, en fait, ça dépasse pas et t'as l'impression de exactement avoir ce à quoi tu t'attendais et que ce soit au niveau auquel tu
Oui, parce que
t'attendais.
c'est ça aussi, c'est quand tu te présentes comme ça, à un moment, il faut que le pari soit
Faut
tenu, quoi. Parce
assumer.
qu'en fait, des gens comme nous, clairement, on les attend au tournant, c'est quand les jeux qui font ça. T'es même, des fois, t'es limite, toi, pour le fun et le plaisir de la critique, t'attends même que le truc il se casse la gueule, quoi. Tellement t'as envie de pouvoir en parler, quoi.
Somme de route, sa
Mais.
version à 140 balles, tu l'attends au tournant, ouais.
Eh ouais, c'est
Et
ça, c'est.
finalement, tu dis, ouais, bah ok, vous êtes fort. Et
Ouais.
sur Athlète de Compète, juste parce qu'il va, je crois qu'il sort cet été, alors encore une fois, il y aura sûrement un jeu du mois, on va pas le faire maintenant. Juste, si vous vous hésitez en disant, je prends plutôt le Streak ou Magical Assault ou Athlète de Compète, il y a souvent ce genre de questions actuellement, est-ce que je prends l'un ou l'autre? C'est deux jeux très différents. Il y en a un, c'est un jeu de loi, un jeu de course. L'autre, c'est un jeu de paris et Auto Battler. Et vraiment, c'est pas du tout les mêmes sensations de jeu. Il y a le même soutien éditorial au niveau de la mise en scène, des visuels. Il y a plein de trucs très très intéressants dans la filiation entre Magical Athlete et Hot Streak. Je pense que Hot Streak s'est inspiré sur certains points de Magical Athlete. Mais essayez les deux.
Il y a ce côté lâcher prise aussi, en fait, tu vois. Là, pour le coup, c'est pour ça aussi que j'étais dans cette dynamique de, il y a peut-être un truc sur le jeu spectacle, parce que Magical Athlete, même si c'est pas de l'auto-battleur, il y a quand même un truc de
Bah
résolution
ouais, t'as plus de
automatique,
choix
malgré
quasiment.
tout. Ouais, t'as plus beaucoup de choix quand même en partie. Tu peux en avoir encore selon les persos que tu joues. Mais il y a quand même ce côté lâcher prise, en tout cas. Lâcher prise et vas-y et regarde ce qui se passe, vas-y, mais laisse-toi porter par le spectacle, laisse-toi porter par presque le film qui se déroule, quoi.
Mais juste comme ça risque d'arriver cet été et que j'ai souvent vu ces questions-là, on peut préférer l'un ou l'autre, hein, encore une fois, hein, pour le coup, c'est pas en termes de qualité, c'est juste en termes de, bah, en fait, c'est pas le même jeu, donc on peut pas vous dire, bah, prends plutôt l'un ou l'autre, parce qu'en fait, les deux sont très différents et ça vaut le coup. C'est pas une redite d'avoir les deux dans sa ludothèque. Voilà, on en reparlera quand Athlète de Compète aura son jeu du mois, parce que ce sera sans aucun doute le cas. Mais ouais, voilà, si vous hésitez cet été, prenez ça comme pré-jeu du mois, vous pouvez avoir les deux, y a pas de souci.
Voilà. Bon, bah, allez, on va aller à la conclusion de l'émission quand même. Donc je rappelle rapidement juste un hot strike. Du coup, c'est John Perry, Cécile Gariepy aux illustrations, avec un parti pris vraiment qui est fort. Voilà. CMYK, on a dit l'édition, c'est distribué par Asmodée. Ça joue de 2 à 8 avec une variante à 2. Voilà. Et au-dessus du 8, on peut jouer, mais avec une variante aussi. Recommandé à partir de 6 ans et bah, franchement, vous pouvez y aller. Hein. Ouais, bon, en tout cas, moi la mienne, ma plus petite a plus maintenant, mais je pense qu'à 6 ans, voilà, on va s'amuser à voir les figurines des mascottes qui vont faire n'importe quoi. Voilà.
Vrai jeu narratif, hein.
Ouais,
Vrai jeu
il se dégage vraiment quelque chose. Enfin, je veux dire, tu te fais la course, tu la racontes en live la course déjà. Je te refaisais la scène d'hier, de ce coup de Trafalgar à la deuxième manche. Enfin bref, oui. Bon, c'est un jeu qui est fabriqué en Chine, hein, forcément, vous en doutez, avec les figurines en plastique et tout ça. Hein, bon, hein, il faut faire avec. Ça dure 20 minutes la partie et c'est à 46,90 € à la Caverne du Gobelin. C'est pas donné. Mais bah ça vous changera des Eurogames à 46,90 €, franchement. Enfin, ça c'est sûr.
Carrément.
C'est sûr. Bon, Flavien, allez.
Allons-y. Ouais, c'est la fin de la saison, hein, donc que vous ayez aimé cette émission ou non, vous pouvez nous le faire savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. On est aussi sur différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Mastodon ou Blue Sky. On est aussi sur Discord où vous pouvez interagir plus directement pendant l'été et avant. Eh, on va sortir juste avant l'été, je crois. Donc même avant l'été, vous pouvez. Et puis après, hein, si vous l'écoutez plus tard, vous pouvez partager tout ça sur les réseaux sociaux et puis parler de nous autour de vous. C'est le petit bouche à oreille qui va bien. Et si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez aussi nous aider financièrement. Pour ça, vous pouvez passer par PayPal. Auquel cas, il y a un petit bouton sur la page d'accueil du site. Et sinon, on peut aussi passer par virement pour éviter les frais PayPal. Auquel cas, vous nous contactez pour qu'on vous donne notre RIB. J'en profite pour rappeler que sur le billet, vous trouvez le formulaire pour les jeux du mois de l'année. Et il est bien possible que moi je vote pour un de ces deux-là assez haut, pour les deux d'ailleurs, mais je pense que entre les deux, Hot Streak pour moi est très au-dessus, enfin est encore au-dessus de Dnup, hein, franchement, pour moi c'est brillant, c'est
Oui,
ouf. Bref.
Je te remercie, Flavien, de m'avoir laissé la primeur sur
Ah oui,
Hotstreak. Je sais très bien
y a
qu'il
pas de
était
souci.
où dans ton cœur, et des fois c'est comme ça, il faut. Oui, ouais.
Ouais, bon, du moment où quelqu'un en parle et tout, moi j'ai déjà plein d'occasions d'en parler encore à côté, alors il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous trouvez le petit formulaire, vous trouvez le lien dans le billet, vous pouvez aller voter.
Et vous pouvez aussi penser à nous mettre des étoiles, tiens, sur les applications de podcast, parce qu'on
ah
dit
oui,
pas assez souvent,
c'est vrai.
Mais
on le dit jamais.
Voilà. Ouais, non, on dit. Je pense l'année dernière, j'ai dû le dire une fois au moment du hors-série ou un truc comme ça. Je me rappelle l'avoir dit. Il y a un certain temps,
ouais.
Voilà. Mais pensez-y.
Ah, c'est plus quelque chose qui se fait tant que ça dans les podcasts. Ils le disent plus à chaque fois.
Bah ouais, mais je l'ai entendu dans un podcast et je me suis dit ah bah tiens c'est vrai, nous on le dit plus. Voilà. Bah, faites-le, ça nous fera plaisir. Et donc bah le prochain jeu du mois, ce sera à la rentrée avec. Hey, peut-être que t'as spoilé, peut-être qu'il y aura athlète de compète, hein, on verra.
Peut-être.
Bon, franchement, s'il est pas là, il sera sûrement en octobre.
Il hein. Y a quasiment personne, quasiment tout le monde qui peut le faire dans l'équipe.
Ouais, hein. On va voir, là, ça va être la bataille. Alors, à la rentrée.
Et d'ailleurs, vous allez peut-être en entendre parler dès la semaine prochaine, un tout petit peu.
C'est vrai.
Puisque la semaine prochaine, il y a l'épisode du T'as joué à quoi au week-end proxy jeu, il est pas impossible qu'un des chroniqueurs parle un petit peu de sa découverte. Voilà. Pas au niveau d'un jeu du mois, c'est-à-dire c'est pas la même optique, mais vous aurez un petit aperçu en tout cas. Donc ce sera le T'as joué à quoi au week-end proxy jeu qui s'est déroulé sur 4 excellents jours il y a quelques semaines. Donc la semaine prochaine, le Tajac, en septembre, les jeux du mois. On se dit à bientôt, et en attendant, jouez
bien.